Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 22 mars 1995, rediffusé dimanche 11 août 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Alors, pourquoi pas le nouveau générique? Je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est parce que sur 50 lettres, je ne parle pas des appels téléphoniques, sur 50 lettres, il y a eu 7 lettres pour et 43 contre. Ce qui fait du 86% contre. Alors, je ne suis pas démocrate, mais il y a quand même des limites à la non-démocratie, si j'ose dire, à l'autoritarisme personnel. Et puis, j'ai eu beaucoup de lettres extrêmement désagréables, je dois dire. C'est très curieux, comme sur cette antenne, on peut dire absolument à
ça
peu près...
par rapport à celle que je vais vous envoyer, parce que vous auriez dû garder le nouveau générique.
Non, mais attendez. Ne préjugez de rien. C'est drôle, comme sur cette antenne, on peut dire à peu près n'importe quoi, tout, puisque c'est une antenne libre. Mais quand on passe une musique de Tex Avery, de Spike Jonze...
C'est exactement ça.
Alors là, mon ami, ça a chauffé. Mais ça chauffe pas mal cette semaine, d'ailleurs. Tiens, je vais vous donner un exemple. Là, ça n'a rien à voir avec
le générique,
mais je vais vous lire le genre de lettre qu'on reçoit. Je la lis parce qu'elle est signée et adressée, autrement elle va directement au panier.
Tout de même, elle est écrite à l'encre verte.
Oh ben ça, chacun choisit ses encres, hein, franchement.
C'est particulier.
Moi, j'écris bien à l'encre ocre, à l'encre ocre. Alors voilà, je vous lis, vous allez voir comment on est traité. Alors, si j'étais payé 500 000 francs par mois comme Poivre d'Arvor ou 400 000 comme je ne sais qui, je trouverais ça normal. Après tout, pour 500 000 francs par mois, on peut bien se faire traîner dans la boue. Mais c'est pas le cas. Alors voilà, je vous ai déjà dit et écrit que par moment vous étiez à votre micro un vrai fumiste, et je crois l'avoir prouvé par A plus B dans la deuxième lettre par laquelle je montrais que dans votre réponse à la première, vous m'avez fait dire exactement le contraire de ce que j'avais dit en réalité. Méthode typiquement stalinienne. Alors je suis déjà un fumiste, et ensuite je suis un stalinien. Moi qui descends d'une famille, enfin qui suis rescapé, parce que moi aussi je suis un rescapé, hein, c'est pas une marque déposée. Je suis rescapé d'une famille où il y a eu 17 morts dans les camps de concentration, mais pas les bons. Les camps de concentration staliniens, ça compte pas. Enfin, quand même 17 morts. Alors, quand on me traite de stalinien, c'est à peu près comme si on traitait le grand rabbin Citruc de nazi, vous voyez, ça me fait à peu près aussi plaisir. Alors, vous n'avez à cela rien répondu, et je pense qu'il en sera de même cette fois-ci, mais je vous pose néanmoins la question de savoir si ce n'est pas être un fumiste, bingo, que de prétendre, comme vous l'avez fait mercredi dernier, que votre soi-disant générique, car c'est un soi-disant générique, il paraît que... un air, une chanson ne saurait être qualifié de générique, mais seulement de jingle... ou à la rigueur d'indicatif, que donc votre soi-disant générique, prétendument intitulé « Les partisans blancs » était l'œuvre de Scriabine. Je pense, quant à lui, qu'en fait à l'origine, il s'agissait plutôt d'un chant à la gloire des partisans rouges, mais surtout, comment pouvez-vous prétendre ne pas être taxé de fumisterie, troisième point, lorsque vous affirmez à vos auditeurs que cette ère a été composée pour les partisans d'une guerre civile, j'ai jamais dit ça, et je vais m'expliquer tout de suite, qu'ils fussent blancs ou rouges, qui a sévi entre 18 et 20 par le susnommé Scriabine, mort en 1915. Serait-il comme Jésus ressuscité pour apparaître, non pas aux yeux incrédules d'un nouveau Thomas, mais devant un général Denikin ébahi pour lui remettre cette ère fameuse? Alors, sur le fond de l'histoire, en réalité, ça n'a rien à voir avec un air composé par les partisans rouges. J'ai écrit l'historique dans un livre de ce chant. C'est une musique militaire traditionnelle de la Russie tsariste qui a été écrite par Scriabine, qui a été ensuite détournée par des déserteurs bolcheviques de son but initial. C'est une musique de marche qui est devenue un chant de partisans bolcheviques et qui a été ensuite récupérée par les partisans blancs de Denikin, et dont la version française a été écrite par Sanders, Plunkett et Lugan. Voilà. Donc que Scriabine soit mort en 1915, ça n'enlève
rien à la
possibilité pour lui d'écrire une chanson, d'écrire une musique qui était une musique militaire, régimentaire, en 1900. Vous voyez ?
Oui.
ça mérite pas quand même de me traiter trois fois de fumiste. Trois fois de fumiste et une fois de stalinien. Non, le fond de la lettre, peu importe, mais voilà comment on est traité, vous comprenez? Moi, je donne pas pour être traité comme ça. Je vois pas ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'insulte, alors que je me contente de faire une émission pour faire plaisir, parce que si ça fait pas plaisir, c'est quand même facile de tourner le bouton. Je suis pas chez vous avec un pistolet pour vous obliger à l'écouter, cette émission, monsieur. Alors vous tournez le bouton, puis vous écoutez, je sais pas. Si vous tournez un petit peu sur la droite, vous tombez sur Radio J. Si vous tournez un petit peu sur la gauche, vous tombez sur je sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, c'est des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec cette émission. Ça devrait vous plaire. Voilà ce que j'avais à dire, d'abord, pour commencer. Ensuite, je voulais dire autre chose. Je constate avec plaisir que vous n'avez pas changé de générique. Il ne faut pas passer de Spike Jonze, qui est typiquement de l'humour. Alors, il y a un mot que je peux pas lire. Américain, anti-tradition.
Voilà.
Bon. Je le ferai plus. Enfin, pendant une heure au moins, je le ferai plus, c'est promis. Mais enfin, quand même, moi, j'aime bien Spike Jonze, non? Je comprends pas quand. Bah oui, voilà, c'est tout. Bon, tant pis. Alors voilà. Je vais vous donner les informations, quelques-unes des informations. Ah, je voudrais quand même saluer au passage Monsieur Philippe de Villiers, parce qu'il y a un autre auditeur qui me dit, mais je comprends pas que vous ne soyez. Lui, il est villiériste. Hein, il comprend pas que je le sois pas. Bon, évidemment, ça je comprends qu'ils ne comprennent pas. Mais l'autre jour, M. De Villiers, à propos du Front National, a dit qu'un parti qui envoyait coller ses militants avec des 22 longs rifles, un tel parti, a-t-il dit, c'est textuel, hein, je le lis dans Présent, un papier de Rémi Fontaine, un tel parti aura du mal à trouver pour sa caution les 500 signatures de maires. Des maires dont les noms seront publiés au journal officiel. Voilà ce qu'a dit M. De Villiers. Ça s'appelle une menace directe, un avertissement. On parlait de stalinien tout à l'heure. Il y en a un autre stalinien qui avait dit exactement la même chose, c'était Robert U. Le stalinien de jardin.
Bobu.
Donc vous voyez qu'il y a des staliniens partout, quoi. C'est vraiment quelque chose. Ce que je voudrais dire simplement à M. Philippe De Villiers, je sais bien qu'il n'écoute pas, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui écoutent et qui lui feront le rapport de ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une vieille tradition en France, de tradition de sagesse populaire, qui dit on parle pas de corde dans la maison d'un pendu, ou qui dit aussi on parle pas de revolver dans la maison d'un flingué, ou qui dit également on monte pas au mat de cocaïne quand on a le caleçon braineux, ou à peu près. Hein. Et moi je sais pas si le Front National envoie ses militants collés avec des 22 longs rives, je sais même que c'est exactement le contraire, puisque des ordres extrêmement précis avaient été donnés, sont donnés en permanence aux militants du Front National, de ne pas coller la nuit, de ne pas coller en petites équipes, de ne pas coller dans les quartiers vraiment trop dangereux, et surtout, naturellement, interdiction formelle sous peine d'exclusion immédiate du mouvement, de jamais circuler avec une arme, ça va sans dire. Enfin, ça ne fait que se surajouter à la loi, d'ailleurs, cet ordre militant. Mais au lieu de s'occuper de surveiller le contenu des poches des militants du Front National, M. de Villiers aurait mieux été inspiré de surveiller le contenu des poches d'un de ses principaux collaborateurs. Ça lui aurait évité de le retrouver flingué d'une balle dans la tête dans son propre bureau. Alors, je veux dire, ça, je dis pas ça par pure méchanceté, mais je dis ça simplement parce que je voudrais que M. de Villiers comprenne que c'est pas toujours facile de surveiller son monde. Quand on a des centaines de militants dans un parti, c'est pas facile de les fouiller tous les jours, tous. Tandis que son adjoint, son principal collaborateur, son directeur de cabinet, c'est plus facile de s'assurer qu'il n'a pas dans sa poche un flingue avec lequel il va s'envoyer une balle dans la tête 5 minutes plus tard. Voilà ce que je voulais dire à M. De Villiers. Il y a des moments où il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut tourner 2-3 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça évite de dire des grosses bêtises. Puis ça évite surtout de se faire des ennemis, parce que c'est très très mal ce qu'il a fait, M. De Villiers, en menaçant de dénoncer les maires qui avaient donné leur signature. C'est très très mal. C'est digne de M. U. Alors quand même, il y a des rapprochements qu'on devrait éviter. Voilà ce que je voulais dire. Autrement, toutes les autres informations dans Présent que vous recevrez demain matin si vous avez eu la bonne idée de vous abonner, que vous pouvez acheter dès cet après-midi si vous avez l'excellente idée d'acheter Présent en kiosque. Il y a quand même un article intéressant sur le fait que, décidément, les gens du Front National sont absolument incorrigibles. Il y a 2 militants ou 3 militants du Front National, dont un 83 ans quand même, hein, qui ont attaqué plusieurs centaines d'étudiants à Auch. Et là, je dois dire qu'il faudrait quand même arrêter, il faut dire aux militants octogénaires du Front National d'arrêter d'attaquer les étudiants dans la rue.
Ils sont méga
à 1 contre 100. Je veux dire, un octogénaire contre 100 étudiants. Parce qu'évidemment, ça provoque des incidents, ça c'est sûr et certain. Il n'y a que l'AFP l'Associated Press qui a raconté le contraire, parce que l'Associated Press prétend contre toute vraisemblance que les lycéens d'Auch, Gers, qui manifestaient mardi dans les rues de la ville pour protester contre le rapport Laurent sur les instituts universitaires technologiques, ont pris à partie des militants du Front National. Ça, c'est l'Associated Press qui écrit ça, alors que c'est évidemment le contraire. Ils ne connaissent pas. Associated Press, d'ailleurs, c'est même pas français. Donc forcément, ils savent pas. Ils savent pas qu'a priori, c'est les trois militants du Front National qui ont attaqué les 100 ou 200 étudiants. Sans ça, on comprend rien à cette histoire. Dont un de 83 ans, quand même. C'est le seul parti du Front National dont les militants à 83 ans se fritent encore avec des dizaines d'adversaires. Vous avouerez que ça mérite quand même, quelque chose, en justice, enfin une action, quoi. Quoi d'autre? 6 mois ferme contre M. Tapie, mais enfin ça maintenant, ça va devenir un peu rengaine à force.
Une auditrice nous dit que sur RTL, elle vient d'entendre que Samuel Maréchal et un autre militant venaient d'être mis en examen.
Samuel Maréchal, il est diplômé plusieurs fois, il n'a pas besoin de passer des examens. Oui, j'ai entendu ça, oui, effectivement. Bah oui, il fait partie des trois qui ont attaqué les 200.
Ah, c'est les trois,
oui. Ouais. D'accord. Et le monsieur de 83 ans, ils n'ont pas pu le mettre en examen parce qu'il est à l'hôpital. Mais a-t-on idée? Voilà. Que je vous dirais encore? Le conseil, à propos de Bernard Tapie, vous le savez, le procureur de Montgolfier, dont tous les journaux disent que c'est un aristocrate, qu'il a le côté coincé de l'aristocratie et tout. Vous avez remarqué? Parce que ça, c'est du racisme autorisé. À partir du moment où vous avez une particule dans votre nom, vous êtes déjà suspect. C'est la loi des suspects, d'ailleurs. Alors, tous les journaux soulignent le caractère extrêmement suspect de la particule de monsieur de Montgolfier. Et donc, ce monsieur de Montgolfier, il a requis 6 mois ferme contre Bernard Tapie. Il y a quand même quelque chose...
Tapie qui avait refait la Révolution française.
Oui, qui dit « j'ai refait la Révolution française ». Il l'a retapissé même, on peut dire, comme on dit chez les truands. Moi, je voudrais simplement attirer l'attention de la classe politique sur un point qui... Moi, je crois... Vous savez, c'est comment on appelle ça, la malédiction de Toutankhamon. Alors, on sait que Le Pen, c'est la bête immonde, ça, c'est parfaitement clair. Mais attention, un porte-malheur, en plus. C'est la statuette malaise. Parce que, regardez, Carignan, il fonde un forum des citoyens contre Le Pen. Pouf, en tôle. Noir, il dit, il faut pas voter pour sauver notre âme, etc. Il mène le combat contre le Front National. Gros problème. Qui encore? Monsieur Longuet, ancien d'Occident, dur de dur, passe à l'ennemi et dit, le Front National, cacaboudin, vilaine chose, boue, Le Pen, fasciste, etc. Pouf, mise en examen.
Léo?
Monsieur Léo, gros ennui. Léo, c'est Léotard. Gros ennui. Monsieur Tapie, 6 mois ferme. Donc, si vous voulez, ça, je le dis, c'est la statuette malaise, n'y touchez pas. Ou c'est le masque de la mort rouge, ça porte malheur, foutez-lui la paix. Ou alors, il faut vous armer, il faut avoir des gris-gris, des goupillons, des bouteilles d'eau bénite sur vous, et encore vous n'êtes pas rassuré parce que je crois qu'il en a plus que n'importe qui. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Naturellement, si vous devez voler demain, je veux dire voler en avion, il vaut mieux éviter puisqu'il y a des grèves partout. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Pas grand-chose. Si, un billet de 500 francs. Mais moi, j'en vois jamais. Donc, qui est Pascal dessus ou Pierre et Marie Curie? Bon, pour le même prix, on en a deux maintenant. Avant, on n'avait que Blaise et maintenant, on a Pierre et Marie. Mais c'est très très rare les billets de 500 francs. Et puis voilà. Et puis trois adolescentes de 14, 15 et 17 ans qui s'étaient enfuies du domicile de leurs parents à Mulhouse ont attaqué samedi deux passantes, dont une octogénaire à Dijon avec des couteaux de boucherie pour leur voler leur porte-monnaie. Elles ont interpellé après avoir été par hasard reconnues dans un autobus par une de leurs victimes et remises à leurs parents dans l'attente de leur présentation à un juge pour enfants. Ça, c'est pour ceux qui auraient tendance à désespérer de la jeunesse. Vous voyez qu'il y a encore des jeunes qui sont entreprenants et courageux et qui n'hésitent pas.
Qui ont envie de réussir.
Oui. Qui ont envie de réussir. Au lieu de demander de l'argent à leurs parents, hein,
ils se prennent en main.
Voilà, elles se prennent en main.
Il y a une auditrice qui vient de téléphoner. Donnez-nous des précisions sur ce que vous venez de dire sur le chef de cabinet de Villiers. Je n'ai pas bien compris. Se serait-il suicidé?
Oui, le chef de cabinet de Villiers, le directeur de cabinet de Philippe de Villiers, s'était suicidé pour des raisons aussi opaques que glauques. dans son bureau à 1 mètre de, ou à 3 mètres de Philippe de Villiers. Ça ne veut pas dire que Philippe de Villiers a la moindre responsabilité là-dedans. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est exactement la même situation. Quand vous avez un militant d'un parti qui se balade avec un flingue dans la poche, le patron du parti n'est pas plus responsable que quand le secrétaire de personnel de Monsieur de Villiers se promène avec un revolver dans la poche. Monsieur de Villiers n'y est pour rien. Et ça devrait le rendre, cette expérience tragique qu'il a faite, devrait le rendre plus indulgent et plus prudent. C'est ça que je voulais dire, pas autre chose. Vous savez, est-ce que vous savez que dans 7 jours, la convention de Schengen entre en... Vous le saviez, vous ? Vous l'avez vu où ? Entre en vigueur.
C'est une question de mémoire, c'est tout.
Non.
Entre les lignes.
Et le seul journal qui en parle en ce moment, c'est le journal de Genève. En France, vous pouvez toujours chercher. Personne ne vous dira qu'à partir de la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, il n'y a plus de frontières. Oui, oui. Donc il ne faut pas vous étonner. Si vous voyez arriver des gens, vous saurez d'où ils viennent. Voilà. Vous savez qu'on ne dit plus avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Non, non, non. Le dossier de presse ministériel qui parle de la fabuleuse grotte préhistorique de la Combe d'Arc dit, tiens, ça va intéresser l'historien qui est ici ce soir, qui est Rénal Secher, que je salue d'ailleurs. Je salue aussi M. Pouradier, qui est l'auteur d'un livre dont on va parler, qui s'appelle Crédit Lyonnais, le casse du siècle, qui n'est pas... C'est un des bouquins les plus explosifs de l'année, je crois. Bon, vous me direz, on n'est pas très avant dans l'année, on est qu'au mois de mars. Mais ça m'étonnerait qu'on arrive à faire beaucoup mieux avant la fin de l'année. On va en parler aussi. Alors, ça va donc intéresser l'historien qui est Rénal Secher. Voilà, le dossier officiel de presse qui présente la Combe d'Arc date de 20 000 ans avant le présent.
Avant le présent.
Cette découverte, oui. 20 000 ans avant le présent. Et la grotte de Marseille, enfin à côté de Marseille, 27 000 ans avant le présent. Maintenant, on dit comme ça. J'ai vu ça dans le journal Aladdin, dans le magazine Aladdin. Alors voilà, on ne dit plus 20 000 ans avant Jésus-Christ, on dit 20 000 ans avant le présent.
Il faudra remettre tous ces livres à l'heure, chaque année.
Chaque année, bien sûr, parce que si vous dites, par exemple, César est mort en 52 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Donc, quand vous publiez en 84, c'est ça ?
44.
44, oui, pardon, 44. C'est vrai, en plus.
Les îles de Mars.
Heureux, les îles de Mars. Heureusement qu'on a un historien à demeure, et en plus, heureusement qu'il connaissait la date.
52, je sais, c'est quoi ?
C'est Astérix qui vous... C'est Astérix, oui. 52, c'est Astérix qui meurt pas, d'ailleurs, c'est lui.
Les sources différentes.
Donc, en 44 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 1995 et 44, ça fait 2049, quelque chose comme nous. Enfin, on va pas... Oui, ça doit faire ça, 2049. Eh bien, l'année prochaine, il faudra publier de nouveaux ouvrages dans lesquels on dira 2060 avant le présent.
Tu sais, Serge, tu t'étonnes de cela. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Il y a une déchristianisation totale du vocabulaire. Je vous prends un exemple. Avant, nous décomposions l'année scolaire suivant des rythmes, et des rythmes religieux.
Mmh. Vacances de Noël, vacances de Pâques.
Que nous parlions de vacances de Noël, etc.
De Toussaint.
À l'heure actuelle, tout est fini. Mmh. On va parler de vacances d'hiver, de vacances de printemps, etc., etc. Ça y est, c'est acquis.
Mmh. Ouais, c'est vrai.
Et c'est passé dans les mœurs.
Oui. Malheureusement.
Voilà. Dans cet ordre d'idées, par exemple, vous avez des rues Saint-Laurent où se trouvent des hôtels, où se trouvaient des hôtels Saint-Laurent qui deviennent chez Laurent en attendant Lolo. Mmh. Et la rue elle-même sera débaptisée bientôt.
Oui. Donc, vous avez quel âge? Vous êtes né en quel âge? 48 ans ou non? 38 ans avant, après, avant le présent?
Avant le présent.
38 ans. Moi, je suis né 48 ans avant le présent. C'est comme ça qu'il faut parler maintenant. Je suis pas né en 1946, ça n'a aucun sens.
Non, mais ta revue, c'est quoi, là?
Non, c'est Aladdin. Aladdin, Florence Fabatier fait un billet d'humour dans la rubrique Beaux-Arts, où elle dit, vous avouerez, j'estime lecteur, que la moutarde m'est montée au nez en recevant un dossier de presse faisant appel à une chronologie aussi imprécise que nouvelle. La fabuleuse grotte préhistorique de Combe d'Arc daterait de 20 000 ans avant le présent, et celle de Marseille remonterait à 27 000 ans avant le présent. Donc elle est parfaitement indignée par ce dossier de presse, qui est le dossier de presse officiel de la découverte de ces...
Vous savez, merveilles. Je vous prends des exemples précis. Bon, j'enseigne un peu dans l'enseignement supérieur privé. Et chaque année, je fais des enquêtes. Vous savez, il y a très peu d'étudiants qui, 2 ou 3 ans après le bac, sachent encore qui est exactement Jésus-Christ. Et en tout cas, on n'est sûrement pas capable de dater précisément la naissance et la mort. Ça, c'est impossible. Et c'est aussi vrai pour Charles de Gaulle ou autre. Hein. Vous savez, l'acculturation, elle est totale. Donc, ne soyez pas surpris.
Bon, ça nous rassure beaucoup ce que vous nous dites.
C'est-à-dire qu'on commence à savoir aussi à calculer l'an 1 de l'Égir, l'an 2, tout ça.
En plus.
Ah ben, c'est le succès de la Révolution française, ça y est. C'est passé la mars.
Donc, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, alors, bien sûr, je sais qu'on doit avoir des appels pour nous dire, pour vous nous parler des sondages.
Non, un peu pour les sondages. Mais on vous demande de parler. Oui,
je passe mon temps à dire que les sondages sont une fumisterie. Bon. Alors, je ne vais pas faire semblant de me réjouir le jour où il y a un sondage qui nous dit que Le Pen fait 13,5%. Parce que, je vous dis, les sondages sont une fumisterie. Donc, on ne sait pas du tout si Le Pen fait 13,5%, s'il fait 10, s'il fait 24. Pas plus qu'on ne sait si Chirac fait 28 ou 22. On n'en sait rien. Tout ça est fabriqué entièrement à la main. Ils l'ont avoué. J'ai lu la semaine dernière le texte. Ça a été avoué tout simplement par la commission de contrôle des sondages qui a dit les chiffres bruts sont absolument dénués de sens. Et ils ne prennent un sens que quand on les a trafiqués. Donc, voilà, c'est pas la peine d'en dire plus.
Pas sur le Bekech tout de même. Je voudrais faire remarquer courtoisement à Serge de Bekech que M. de Montgolfier n'est pas un aristocrate, mais un noble.
Très bonne remarque de la part de cet auditeur. C'est l'historien qui parle. Il y a une grande différence entre l'aristocratie et la noblesse.
Merci, merci Renald, d'ajouter une...
Élève Bekech, je nous ferai sans ligne.
Bien, pardon. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un aristocrate, d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus d'aristocratie.
Il n'y a plus d'aristocratie.
Bien sûr. Je présente mes excuses à tous les nobles pour les avoir assimilés à des aristocrates. Alors, je voudrais signaler à nos auditeurs que... vous savez qu'il y a un grand débat depuis ce matin en France. La France est-elle raciste? Moi, ça fait des années que je dis et que oui, la France est un pays extrêmement raciste et qu'il faut le faire savoir en Afrique parce que il y a grand danger pour les Africains à continuer à venir dans ce pays raciste. Donc il faut qu'ils arrêtent de venir, ne serait-ce que par sécurité personnelle. Et depuis ce matin, on a la preuve que c'est un pays raciste puisque 2 Français sur 3 ont reconnu, dans une enquête faite par la Ligue des droits de l'homme ou quelque chose d'approchant, qu'ils étaient racistes. C'est-à-dire que le racisme, attention, ça commence quand même... à partir du moment où vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés en France, vous êtes raciste. Donc ça commence assez bas quand même, il faut dire. Donc 2 sur 3. Et le même sondage montre que 2 Français sur 3 exigent un renforcement des lois antiracistes. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 1 Français sur 3 qui dit « Chérie, fais-moi mal ». Je suis raciste, mais il faut renforcer les lois antiracistes. Donc il faut taper plus fort. Tapez-moi plus fort. Bon, ce qui ne m'étonne pas, parce que ça fait quand même 30% d'imbéciles, on peut estimer qu'on s'en tire pas mal statistiquement. Mais je voulais dire qu'il y a quand même une disposition qui vient d'être prise, de caractère privé. Il y a un numéro de téléphone qui s'appelle, qui a été mis en place par le collectif de vigilance et de solidarité. Alors c'est très très simple, je vous donne le numéro... C'est 42-54-01-01. 42-54-01-01. Chaque fois que vous assistez à un acte de racisme au quotidien, à un blocage délibéré de la part des instances policières et administratives plongeant les familles dans des situations insolubles, à des violences policières ou à toute forme d'exclusion, vous appelez 42-54-01-01 et vous dites « Allô, je voudrais vous dire que mon voisin n'aime pas les Arabes. Il habite au 4e étage, 77 rue de la Poupée qui tousse, à Soisy, sous Montmorency. » Puis vous raccrochez, et là, bah, c'est enregistré et tout. Donc, c'est un numéro de téléphone qui permet de prévenir, d'alerter, de témoigner. Et c'est très, très bien. Moi, je suis étant d'extrême droite, nazifiant, comme chacun sait, je trouve très, très bien qu'il y ait des numéros de téléphone de délation où on peut téléphoner en disant « Allô, mon voisin n'aime pas les Africains ». Bon, déjà, vous voyez, c'est bien, c'est utile, ça fait avancer le schmilblick. Il y a quand même une chose qui m'étonne un petit peu, c'est que cette initiative, elle est indiquée, j'ai le tract sous les yeux, je peux prendre à témoin les gens qui sont autour de cette table, comme étant soutenue par la Fédération anarchiste. Voilà. Bon, moi, je suis pas anarchiste, mais enfin, là... À droite, on a toujours une espèce de tendresse comme ça pour les anarchistes. On considère que les anarchistes sont des gens qui ont une si haute idée de l'ordre qu'ils n'en acceptent pas la caricature. Et qu'en tout cas, on a l'impression que si on est en fuite, ce qui à nous risque toujours de nous arriver, on peut se réfugier chez un anarchiste, même en lui disant « je suis un type d'extrême droite, mais je suis poursuivi par la police », l'anarchiste vous dira « bon, planque-toi pendant au moins une demi-heure ». Ça ne veut pas dire qu'il vous donnera à manger, mais il vous servira probablement un coup de rouge. Et puis ensuite, il vous tapera sur l'épaule en disant « Maintenant, tire-toi parce que t'es pas mon copain ». Mais voilà l'image qu'on a de l'anarchiste. Eh ben, je vous dis, il faut modifier cette image parce que maintenant, la Fédération anarchiste soutient un collectif de vigilance. Collectif de vigilance, hein. C'est pas beau, ça? 42 54 0101. N'hésitez pas à les appeler pour me dénoncer, par exemple. Si vous savez pas quoi dire, vous appelez, vous dites De Becketch parle sur Radio Courtoisie. Ce qui est une provocation insoutenable. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'actualité. Est-ce qu'il y a des appels téléphoniques qu'il faudrait répondre ?
J'ai écouté l'émission de samedi 18 à 11h sur France 2, vous savez, l'émission de Michel Cotta. Madame Stirbois a dit que le Front a toujours été contre Maastricht. Quelques temps après, Marie-France Garraud, qui représentait la liste de Villiers, a affirmé que celui-ci était le seul à être contre Maastricht. Marie-France Stirbois a été trop gentille face à l'agressivité de Madame Garraud. Mais elle a réussi à dire que M. de Villiers n'était jamais au Parlement européen.
Madame, qui vous dites Madame comment ?
Marie-France
Garraud. Non, l'autre.
Madame Stirbois.
Ah, non, l'autre. Elle s'appelle toute Marie-France, alors ?
Bah oui.
Mais il y en a... Stirbois, je connais, mais l'autre, comment elle s'appelle ?
Marie-France Garraud.
Pas du tout, qui c'est ça ? Alors, n'importe qui peut venir à la radio dire n'importe quoi et on est obligé d'en parler ?
Je crois que c'était une amie de M. Pellat. Mais... Oui, plus qui
bon,
c'est,
sortons sur la pointe des pieds.
Marie-France, comment ?
Toutes les demi-heures sur LCI, en alternance avec les aventures de Bernard Tapie, on répète l'affaire de Samuel Maréchal. Maréchal.
Vous allez voir que c'est Samuel Maréchal qui va prendre 6 mois ferme. Du coup.
Quant à Aladdin, c'est un magazine d'antiquaires. Alors les antiquaires et les siècles.
Oui. Bon, je vois pas. Mais enfin, non, mais c'est bien. Monsieur Pourradi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous savez qu'il y a un principe dans cette émission, c'est que c'est ce que j'appelle le dédouanage. C'est-à-dire qu'à un moment de l'émission, on franchit une limite, au-delà de laquelle il n'y a plus de borne, ou le contraire. Non, mais je dis toujours que mes propos n'engagent que moi-même et pas mes invités. Ça veut dire que leur présence n'est pas une caution, n'est pas un contrat d'adhésion, rien de tout ça. J'ai invité... Gérard Pourradi a parlé du livre qu'il a écrit avec Fabien Perruca et qui s'appelle « Crédit lyonnais, le casse du siècle ». Je ne sais pas ce qu'il pense politiquement par ailleurs, et c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler du Crédit lyonnais, et on va en parler dans l'actualité, puisque le livre que vous avez fait est une enquête journalistique, comme on rêve d'en faire quand on est un journaliste d'investigation, mais, ou quand on a été un journaliste d'investigation. Il y a tout dedans, c'est tout à fait surprenant. De voir à quel point vous avez pu creuser cette affaire qui paraissait au début à peu près inextricable et à quel point vous faites des révélations qui sont renversantes. On est ahuri parce qu'on apprend sur la façon dont a été géré, dirigé, manipulé, exploité, on peut dire maqué le Crédit lyonnais pendant autant d'années, et apparemment tout ce petit monde ne sera pas conduit au dépôt.
Faut voir,
vous dites.
Faut voir, parce que ça fait tellement de bruit, ça coûte tellement d'argent. Et depuis ce livre, effectivement, il y a des mesures qui commencent à être prises, en tout cas du côté de Matignon. Tant qu'il y a un occupant à Matignon,
je pense un truc donc,
ça va bouger certainement.
C'est dommage qu'il n'y ait pas, que la Fédération anarchiste n'ait pas financé aussi un téléphone pour dénoncer les malversations financières, parce qu'on pourrait l'appeler, puis on lui lirait le bouquin.
Bah, en fait, c'est pas vraiment la peine, puisque en réfléchissant bien, tout était dans la presse.
Oui, tout est toujours dans la presse, mais...
Il suffisait de compiler.
Oui, il suffisait de savoir le trouver.
De mettre 1 plus 1 égale 2. Mmh. Il suffisait de compiler. C'est vrai que les informations sont sorties d'une façon diffuse, parfois à l'étranger. Mais elles sont revenues en France à chaque fois. Elles sont revenues dans la presse. Et à part quelques détails croustillants qu'on a mis dans ce bouquin et quelques réflexions intelligentes, finalement, tout était dans la presse, que ce soit dans Le Figaro ou dans Libération.
Ce que vous venez de dire est extraordinaire. Parce qu'à part quelques réflexions intelligentes, tout était dans la presse.
Et oui, la réflexion intelligente, par exemple, concerne la maison Altus. Altus est une très très belle histoire. C'est Jean-François Hénin qui était à Thomson CSF, qui avait monté une grosse maison financière pour faire des bénéfices à l'intérieur de la société nationale Thomson. Et il en faisait tellement de bénéfices financiers que ça lui a rapporté, à un moment, que ça a rapporté les 2/3 des bénéfices de Thomson. C'est-à-dire deux fois plus que les missiles et les postes de radio. C'est pas mal comme idée. Et il a monté donc avec Abrer cette maison Altus pour jouer de l'argent au niveau international sur ces fameux junk bonds, ces obligations pourries, celles dont personne ne veut, les actions dont on croit tout le monde croit qu'elles vont se casser la gueule, on les rachète. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et ça s'est passé aux États-Unis. Et pour ça, Abrer a été, il s'est vu décerner par la ville de New York la médaille d'or du commerce, je crois, pour avoir acheté les fameuses exécutions d'Executive Life. Il est parti de Paris avec un chèque de 20 milliards de francs en poche.
Ça existe, des chèques de 20 milliards de francs.
2 000 milliards de centimes. Il les a confiés à la fameuse banque Dresdner, Bruxelles, Lambert, dont on sait que tout le monde est en prison depuis le film Wall Street. Et puis après, il était bien emmerdé avec ses actions Executive Life parce que la loi américaine l'obligeait à les revendre. Et s'il n'avait pas pu les revendre avant une certaine date, c'est tout le crédit lyonnais aux États-Unis qui sautait. Il a réussi à les revendre. Et tout le monde a crié au génie. Alors effectivement, moi, quand je me suis penché sur cette histoire de crédit lyonnais, j'ai cherché à qui il les avait revendus. Puis à un moment, je suis tombé sur le nom Artemis. J'ai dit Artemis, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Je suis regardé dans le registre du commerce et je suis tombé sur François.
J'en connais une, c'est la grand-mère de comment elle s'appelle, Valérie Delahaye, mais c'est la seule. Je pense pas qu'il s'agisse d'elle d'ailleurs, parce que
je connais pas Valérie.
20 milliards, c'est.
Et je suis tombé sur François Pinault du Printemps. Tiens. Et alors là, je me suis dit, oh là 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 là. Comment se fait-il que François Pinault, qui siège au conseil d'administration du Crédit Lyonnais, qui est un des plus gros clients du Lyonnais, j'ai pas dit débiteur ni créancier, client du Lyonnais, ait monté cette société en collaboration avec Jean-François Hénin pour acheter les titres Artemis et que tout le monde crie au génie? Il y avait un article très très bon hier dans Libération, le seul qui soit paru à ce sujet, qui expliquait comment François Pinault avait racheté les titres du Crédit Lyonnais avec l'argent du Crédit Lyonnais. Oh là là. Et j'étais très content, c'est à la page 110 du livre, parce que j'ai dit, mais ça c'est une histoire bizarre, il faut se méfier, attendons d'avoir quelque chose là-dessus. Alors là, je peux vous dire, vous allez au printemps, vous ne trouvez pas ce livre. Hein. Les éditeurs ont essayé d'aller le mettre de force en vente. On leur a dit, non, les ordres viennent de très très haut. François Pinault a lu ce livre, j'en suis fort aise. Il a dit, on ne le vend pas. Genre, je ne sais pas si c'est condamnable par la loi, le refus de vente.
Il faut dire d'ailleurs une chose, c'est que c'est pas le plus gros éditeur français qui a publié ce livre.
C'est un petit éditeur,
qui s'appelle Transparence.
Qui est caché et qui va essayer de le rester parce que les procès qui nous pendonnaient vont faire beaucoup de mal.
Ce qui est marrant, c'est s'appeler Transparence pour un éditeur caché. Voilà. Mais enfin, on trouve quand même le livre dans quelques bonnes librairies.
Tous les supermarchés, toutes les bonnes librairies.
Crédit Lyonnais, le casse du siècle. Alors,
j'ai fait l'expérience, il arrive en 24 heures, il suffit de le demander si on ne trouve pas dans son point de vente habituel.
Là, vous venez de nous raconter une gigantesque histoire, mais est-ce que vous vous sentez capable de résumer en deux minutes le casse du siècle? Qu'est-ce qui s'est passé au Crédit Lyonnais?
C'est très simple. Ça tient en une seule date, les années 80, et trois noms. De Flacieux, Lévesque et Abrer. 1980, c'est Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis qui dit « Faites de l'argent, tout le monde va faire de l'argent ». Les Français embrayent un peu tard là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'année de la finance complètement débridée. Tout le monde commence à jouer de l'argent pour faire de l'argent, gagner de l'argent avec de l'argent. Plus personne ne produit rien. Trois hommes, c'est De Flacieux.
Personne ne m'avait rien dit à l'époque. Moi, autrement, j'aurais fait comme eux.
De Flacieux, il faut toujours avoir une mise au départ. Ou alors, il faut savoir emprunter, surtout au départ. Jean De Flacieux, qui est un homme de la base, lui, il est rentré au Crédit Lyonnais, porter des enveloppes sur sa Vespa, puis il a monté les échelons. Il se trouve qu'il était socialiste et qu'il appartenait à la même, je sais pas comment on dit, loge, que Pierre Mauroy. Et quand Pierre Mauroy est arrivé comme Premier ministre, il a dit « Jean, toi tu prends le Crédit Lyonnais ». Oui, il était un grand directeur à l'époque, et Claude-Pierre Brossolette qui s'en allait, avait atteint l'âge de la retraite, lui faisait confiance. Bon, Jean De Flacieux, il n'y a pas de problème. En 94, début 94, devant la commission d'enquête, il n'aura pas grand-chose à dire, sauf « sans la banque, moi je serais un pauvre type ». Bon, ça c'est clair, c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. 86, exit des Flacieux, seulement De Flacieux, il a fait une bêtise. Et pas vraiment de sa faute, il est bête, c'est un pauvre type.
C'est lui qui le dit en plus.
Ouais. Il a fait une bêtise monumentale, c'est qu'il a engagé le rachat d'une banque complètement pourrie en Hollande, qui s'appelait à l'époque, le nom m'échappe, Off Rotterdam. Et C'est son prédécesseur, Claude-Pierre Brossolette, qui avait pensé s'étendre un tout petit peu en Europe, qui avait pensé à cette banque. Et De Flacieux va poursuivre le mouvement, tout doucement d'abord, et puis un peu plus vite, jusqu'en 86, au moment de l'alternance. Et en 86, au moment de l'alternance, il se passe un fait merveilleux, c'est que Édouard Balladur, ministre des Finances, et Jacques Chirac, Premier ministre, appellent à la tête du Crédit Lyonnais un type dont personne n'a entendu la voix depuis 20 ans, je pense, sur une antenne de radio. On l'a pas vu sur une télévision. C'est un homme extrêmement discret, un monsieur extrêmement discret, qui s'appelle Jean-Maxime Lévesque. Qui est Jean-Maxime Lévesque? C'est un énarque, un ancien fonctionnaire, haut fonctionnaire, inspecteur des finances, et qui a été à la tête du CCF, le Crédit Commercial de France, qui a été nationalisé en 82. En 82, tous les gros clients du CCF ont été largement indemnisés pour leur pour que la banque soit nationalisée. Ils s'en vont, et avec ces gros très très gros clients, il y a Trabulsi, il y a Kramouche, il y a des gens comme ça, Maxwell,
la crème de l'élite
des gens qu'on veut pas voir. Monsieur Lévesque va monter une banque qui s'appelle International Bank Incorporated.
Rien que ça, déjà, on commence à dans enchaîner son portefeuille.
Dont le siège est à Curaçao, aux Antilles néerlandaises. Le sous-siège est à Luxembourg.
Et aux îles Caïmans, il n'y a rien?
Il n'y a rien aux Caïmans, encore, ça va venir. Et, enfin bon, c'est la banque de la magouille, ça c'est clair. Au moment de la commission d'enquête, tout le monde va en parler en disant une banque pourrie, des activités hautement répréhensibles, une morale plus que douteuse. Enfin, ça, ce sont les termes officiels des rapporteurs, des autres banquiers. Enfin, plus pire que cette banque, on ne fait pas mieux. 86-88, et il y a beaucoup d'argent qui part. Lévesque est à la fois président du Crédit Lyonnais, et puis, comme il dit devant la commission d'enquête, j'étais un petit peu président du Crédit Lyonnais, enfin, j'étais un petit peu président de la Banque IBI à Luxembourg, peut-être un peu aussi de la Banque IBI à Curaçao. Enfin bref, l'argent sale dans toute sa splendeur. 88 arrive, Jean-Yves Rabrer est nommé à la tête du Crédit Lyonnais. Ah, troisième personnage exceptionnel, lui est un mégalo fini. On peut pas faire plus mégalo que lui. Il rentre la première journée qu'il rentre dans le siège du Crédit Lyonnais, il regarde tous les employés, les grands directeurs qui sont là, et il leur dit vous êtes ternes, vous êtes gris, vous êtes pas beau. On va essayer de changer ça.
C'est lui qui avait eu cette phrase extraordinaire. Mais je me félicite d'être aussi intelligent.
C'est lui qui. Ouais, ça se passait à Saint-Pétersbourg.
C'est pas incroyable. Ben
voilà, trois personnages plus bon, évidemment des magouilles qui sont incroyables puisque. Entre 86 et 88, on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand Lévesque est à Paris et que sa banque est toujours au Luxembourg. Mais à partir de 89, quand Lévesque est libre, le Luxembourg lui dit « on ne veut plus de votre banque chez nous ». Ça, faut le faire.
Oui, pour se faire virer du Luxembourg pour un banquier, c'est quand même...
On n'a jamais vu ça. Et le Luxembourg, l'État du Luxembourg...
C'est comme un casino qui se ferait virer de Las Vegas, à peu près.
Tout à fait. L'État du Luxembourg prend contact avec l'État français et leur dit « Virez-moi cette banque. On n'en veut plus, c'est trop grave. » Et qui prend la décision de donner cette banque au Crédit Lyonnais? C'est Jean-Claude Trichet, qui est alors directeur du Trésor, aujourd'hui gouverneur de la Banque de France. Qu'est-ce qui s'est passé entre 86 et 88, entre le Luxembourg, le Curaçao? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 89... Abrer, contraint et forcé par Jean-Claude Trichet, accepte que la fameuse banque IBI rentre dans les comptes du Crédit Lyonnais et que ça va coûter grosso modo à la France quelque chose comme 20 milliards de francs. Une autre magouille, je vous donne la MGM. Ça,
oui, très belle. La MGM, c'est donc la métro Goldwyn-Mayer.
Le plus beau studio du monde, autant on emporte le vent, etc., etc. Les plus grands films qui ont jamais été faits. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien. Même les entrepôts ont brûlé. Et tout ça, ça va nous coûter 1,5 milliard, 2 milliards de dollars. Vous multipliez par
5 à peu près.
5 en ce moment pour avoir le cours
5
français.
Milliards de francs.
Alors là aussi,
500 milliards de francs, c'est rien ça.
Non, mais là aussi, c'est une très belle histoire. Parce que ça coûte quand même 1 million de dollars par jour, de frais d'entretien. Ah, Et puis il y a 1 milliard de dollars de dettes qu'il faudra bien régler à un moment ou à un autre. Alors là, c'est une très très belle histoire. La France est riche. La MGM, c'est une très très belle histoire parce que ça commence par une histoire de film porno israélien. Quand ces crétins de Flacieux et Lévesque s'entêtent à racheter cette banque pourrie à Amsterdam dont le nom m'échappe.
Il est dans le bouquin, le nom.
Dans le bouquin, il n'y a pas de problème.
Vous avez juste un trou de mémoire.
Vous regardez à CLBN. Ouais. Non, pas. Oui, c'est ça. On l'appellera après Credit United Bank of Netherlands. C'est une banque pourrie. Hein. Il y a les flics qui font des descentes tous les deux jours.
Oui, c'est ça, vous racontez
pour fouiller
ça
dans les comptes.
Et ils y ouvrent les coffres, ils prennent de la drogue.
Il y a un casse.
Ah oui, c'est ça.
Les flics sont appelés sur les lieux, la moitié des coffres sont ouverts. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du coffre? Du hash, de l'héroïne, des liasses de dollars, des bijoux volés, etc. On ne sait pas ce qui était dans la moitié des coffres qui n'ont pas été ouverts.
Enfin, bon. C'est superbe, c'est une histoire superbe.
L'État français est au courant. Ça, Chirac, Balladur ont été alertés, le Trésor a été alerté, la Banque de France a été alertée. C'est pas grave, on continue, on s'entête. Le Crédit Lyonnais Bank of Netherlands nous coûte une fortune, rien qu'à l'achat. Et il se trouve que le CLBN, en fait, fait des affaires, beaucoup d'affaires, grâce à un type qui s'appelle Franz Hoffmann.
C'est la banque Slavenburg.
La Slavenburg, merci bien. Le Crédit Lyonnais là-haut faisait des affaires grâce à un monsieur qui s'appelait Franz Hoffmann et qui faisait beaucoup de cinéma grâce à des israélo-américains qui avaient une société qui s'appelait Canon avec deux N, hein, ça n'a rien à voir avec les appareils photos. Ils étaient spécialisés dans le film porno qui distribuait dans tous les pays arabes et ça rapportait beaucoup. Il est évident que tous les directeurs, les grands directeurs du Crédit Lyonnais, les présidents du Crédit Lyonnais à Amsterdam se sont baladés sur les lieux de tournage. Qui a eu des histoires monstrueuses. On a quand même financé à cette époque-là Platoon, Le Dernier Empereur, enfin, la plupart des grands films qui ont fait beaucoup, les grands films américains qui ont fait beaucoup de succès. Ce qui me fait marrer d'ailleurs, parce que quand les Américains viennent nous dire, hey, arrêtez de subventionner vos films en France, ça me fait aussi marrer quand les acteurs français vont dire, ah, les Américains nous oppressent, l'État français, donnez-nous de l'argent pour nous financer.
Oui, c'est un
ridicule,
gag.
Quoi, ridicule, voilà. Et alors, maintenant, l'histoire s'amuse, est encore beaucoup plus amusante, puisqu'on tombe sur le couple d'escrocs Paretti-Fiorini. Alors, le Paretti-Fiorini, c'est pas deux croyant, escrocs c'est... italiens, comme on n'en fait plus. Quand Paretti a été mis en résidence surveillée, il avait 2500 sociétés à son nom. Fiorini, lui, est en prison à Genève en ce moment.
Il s'appelle Fiorino Fiorini.
Florio Fiorini.
Oui, c'est ça. Ça. On l'appelle Fiorino. C'est une petite fleur fleurie, en quelque sorte. C'est joli pour un escroc.
On estime qu'il doit à la Banque de Suisse quelque chose comme 12 000 milliards de francs. En Suisse, on appelle ça le plus gros scandale bancaire alors je sais pas si c'est du siècle ou du présent, peu importe, oui. De toute façon, avec autant d'argent, on s'en sort plus.
Le plus gros scandale bancaire depuis 2000 ans avant le présent.
Maintenant, vous mettez là-dessus Berlusconi, vous tombez sur ces deux escrocs qui ont fait leur fric, l'un avec la mafia, l'autre avec la Libye, le pétrole, les Seychelles, les pétroles italiens. Vous mettez là-dessus Berlusconi, qui déjà rêve d'être un empereur en Europe et qui décide de racheter des salles de cinéma un peu partout pour devenir l'empereur du cinéma américain en Europe, plus une gestion socialiste complètement aberrante à partir de 89. Et vous avez le rachat bête de la MGM. C'est-à-dire le Crédit Lyonnais qui s'engage, millions de dollars après millions de dollars, et après qui est obligé de passer le pas.
Au fond, c'est très rigolo et très moral cette histoire, parce que ce sont les gens du Crédit Lyonnais qui achètent la MGM. Ils sont fascinés par un nom mythique, qui est MGM, et ils sont même pas conscients qu'ils achètent rien, qu'ils achètent une coquille vide.
Officiellement, le Crédit Lyonnais dit, on ne voulait pas y aller, mais ils l'ont dit verbalement. C'est là où tout dérape, parce qu'il est évident que Jean-Yves Abrère, grand patron du Lyonnais, n'aurait pas dit à son directeur à Amsterdam, on ne suit pas ces gens-là dans l'achat de la MGM. On ne le dit pas verbalement, on le note, ne serait-ce que sur un bout de papier. Ouais. Ça fait partie des notes des hauts fonctionnaires, ils ont toujours des petites notes sur eux. Il y a toujours une preuve de
ça. Généralement, d'ailleurs, c'est ça qui les conduit en prison.
D'ailleurs, on se demandera toujours comment l'ex-directeur du Crédit Lyonnais à Amsterdam, revenu à Paris, peut à 18h un vendredi soir décrocher son téléphone et dire à l'Italien, bon d'accord, pour les 600 millions de dollars qui restent, j'y vais. Il a fallu qu'il envoie un fax, un papier signé, un engagement de la banque.
Bien sûr, bien sûr.
On n'en parle même pas, c'est une magouille fabuleuse.
Quant à la... Bon, on est ahuri de vous entendre, parce que c'est d'une telle médiocrité. On a l'impression, nous, les gogos...
Telle médiocrité ? C'est pas vous qui avez voyagé en DC-8 aménagé, Cadillac Rose, Super Pépé sur tous les sièges. Ils ont bu autant de champagne que vous en boirez jamais dans toute votre vie. Ouais. Ça s'appelle pas la médiocrité, ça.
Non, mais la médiocrité des erreurs commises, c'est pas des... je veux dire, il n'y a pas de grands coups gigantesques, flamboyants, comme on imagine, ou comme le cinéma américain nous a montré parfois... des grands coups de finance, des grands coups monétaires qui jouent, qui font trembler des États et tout. Là, c'est vraiment des minables qui, comme vous le disiez tout à l'heure, pour le plaisir d'être invité sur des tournages de films porno, débloquent des centaines de milliards. C'est ahurissant, quoi.
Alors, c'est aussi bête que ça.
Mais l'accumulation de ces petites choses aboutit à un trou que vous, vous évaluez à combien?
Bah, nous, on en est resté une hypothèse basse pour pas trop se faire attaquer pour les par les tribunaux. On en est resté à 100 milliards.
Oui.
10 000 milliards de centimes. Oui. Bon, le chiffre qui est sorti il y a quelques jours.
10 millions de millions, ça veut dire que avec ce qu'ils ont perdu, on pourrait 10 millions de millions de centimes, c'est ça, hein? On pourrait donner
10 000 milliards de centimes.
Ouais. 10 000 milliards de centimes, ce qui veut dire 10 millions de millions.
Moi, je suis paumé depuis le début, ouais, dans les zéros.
Non, ce qui veut dire que pratiquement à un Français sur cinq, autrement dit à chaque famille française, on aurait pu donner 1 million de centimes.
Presque.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. C'est quand même pas rien.
Donc là, il va falloir donner 2 000 francs pour rembourser.
Oui.
Chacun.
Alors, justement, 100 milliards de francs actuels, 10 000 milliards de centimes d'avant.
Mais ça, c'est notre hypothèse.
C'est votre hypothèse. Elle est à la hausse maintenant. Hein.
Ben, elle est à la hausse. Il se trouve que l'État français, pour pas que le Lyonnais se casse la figure et déstabilise toute l'Europe, hein, parce qu'on en est là, hein. Faut être très très clair. Si le Lyonnais tombe, ce sont les trois quarts des industries en Europe qui tombent.
Ne me faites pas rêver.
Il faut bien se rendre compte de ça.
On attendait les Cosaques ou le Saint-Esprit, on va arriver le Crédit Lyonnais.
C'est le chaos ou l'apocalypse à ce niveau-là. Alors là, c'est fabuleux, c'est que l'État français va emprunter 135 milliards de francs au Crédit Lyonnais, 13 500 milliards de centimes, à 7% d'intérêt. Et le Crédit Lyonnais reprête à l'État français 125 milliards de francs, 12 500 milliards de centimes, à 0%. Ce qui lui permet d'engranger dans la première année 7% d'intérêt, ça va représenter à peu près 10 milliards de francs, nouveau. Exactement le trou dont il a besoin pour combler ses finances immédiatement. Et puis, le reste, on se demande comment les Français vont financer.
Parce que on a entendu M. Perlevat ce matin sur France Inter qui expliquait, il a expliqué très très clairement que...
vous avez la chance si vous l'avez compris ce matin.
Enfin, quand je dis très clairement, c'était très péremptoirement que les contribuables n'auraient rien à payer.
Oui, ça, il peut toujours dire ça.
Oui, je peux le dire.
Oui, le problème, c'est qu'ils sont seuls à y croire. Quoi.
Oui. Le seul qui va
et lui, ils sont seuls, oui, à y croire.
Et puis BNP, en France, le seul qui va en prison quand il ment, c'est Tapie, quoi. Les autres,
oui, il n'y est pas encore.
Il n'y est pas encore.
Non, non, toutes les banques européennes en ce moment sont en train de râler à Bruxelles. Alors évidemment, ça se sait pas parce que les radios françaises parlent très rarement de la presse anglo-saxonne. Et surtout des unes de presse anglo-saxonne. Enfin, c'est vrai que toutes les banques en Europe râlent, les Américains s'y mettent, et Bruxelles dit c'est pas possible, là, y a un truc qui va pas. On n'a jamais vu un montage financier comme ça. On avait essayé de faire le coup l'année dernière, et c'était presque passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait ce livre l'année dernière, parce que c'était à 50 milliards près la même chose. Et les gens du Trésor public le disent eux-mêmes, c'est un montage extrêmement osé.
C'est un montage osé, mais c'est totalement illégal. Si vous transposez cette affaire, par exemple, vous êtes propriétaire d'une maison, vous voulez que votre fils reçoive cette maison, vous voulez pas payer votre fils ou votre neveu, vous voulez pas payer de droits de succession. Donc vous faites la chose suivante, vous dites à votre neveu, la maison vaut 1 million de francs, je te prête 1 million de francs à zéro. Centimes, tu m'achètes 0% d'intérêt, je veux dire, tu m'achètes la maison avec ce 1 million de francs, et puis tu me rembourses quand tu peux. Le fisc dit non, ça n'existe pas, il est obligé de vous payer un intérêt au taux légal, premièrement, et deuxièmement, il est obligé de vous rembourser, car autrement il s'agit d'une donation déguisée, et donc elle est soumise à une taxation très forte.
Tout à fait.
Mais c'est exactement ce que fait l'État avec.
Supprimer le fisc, et mettez simplement. Quelqu'un qui doit de l'argent aux impôts, il a dissimulé de l'argent à gauche, et au lieu de le donner à droite comme ça, il dit, écoutez, je m'emprunte de l'argent à gauche, je vous le donne à droite. C'est pareil, le fisc va dire, non mais ça va pas. Alors dans le cas du Crédit Lyonnais, c'est l'État qui s'emprunte de l'argent à lui-même. C'est complètement aberrant comme système.
Il y a une question, c'est extraordinaire, j'avais jamais pensé à la poser, c'est un auditeur qui la pose. Dis bon, d'accord, vous nous dites que le Crédit Lyonnais a perdu de l'argent. Ok, ça va, mais qui en a gagné dans cette histoire?
Oh bah là, les noms sont très faciles. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a d'abord les deux grands escrocs, Florio Fiorini et Giancarlo Paretti.
Fiorini, il est en Suisse.
Il est en Suisse.
Dans une prison en Suisse.
Que son argent, lui, est au Panama.
Ouais.
Il doit certainement avoir mis... On parle à un moment de 500 millions de dollars qui ont disparu, qui sont certainement dans ses poches. Giancarlo Paretti, lui, il se vante officiellement, hein, dans un hebdomadaire italien qui s'appelle El Globo, d'avoir piqué 2000... Ah, c'est vrai, les chiffres sont tellement aberrants que... 2000 milliards de centimes. 2 milliards...
Donc 20 milliards
de, 20 milliards de 20 centimes milliards de au Crédit Lyonnais. Donc, 20 francs. Milliards de francs, pardon, au Crédit Lyonnais. Oui, je me paume. Donc on peut conclure qu'il les a mis à droite. Alors, sous ces gens-là, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Hein, leurs noms ne sont pas très intéressants, sont des gens de la nébuleuse. En France, il y a des gens très très intéressants, comme M. Jean de Beaumont et Édouard de Rives, les deux présidents de la d'une société qui détenait les titres de pâté, une grande société. On les voit toujours au Cercle Interallié, sont des gens très très connus. C'est une des plus vieilles sociétés françaises. D'ailleurs, amusant, plus on rentre dans les vieilles sociétés françaises, en plus on s'aperçoit qu'il n'y en a pas un qui a leur qui a son siège social en France. Ils sont tous au Luxembourg, aux Bahamas.
Ils ont plus d'expérience que les autres. Ils sont pas idiots.
À Djibouti aussi, ça c'est très intéressant. Ils ont beaucoup de sociétés à Djibouti, ces deux-là. Alors ceux-là s'en sont mis plein les
poches. Si on les obligeait à aller habiter à l'endroit où ils ont leur société, ils auraient peut-être moins de sociétés à Djibouti.
Alors vous voulez d'autres noms?
Député de la Cochinchine en son temps, ce qui fait qu'elle a pu en planquer aussi.
Qui ça?
Jean de Beaumont, l'actuel président de la Serralier, était député de la Cochinchine quand nous allions à la Cochinchine. Alors je vous laisse imaginer.
Oui, on imagine. Les piastres.
Alors voilà, c'est... beaucoup de piastres. Alors je peux vous en citer d'autres. Hein. Pagaille, ça c'est pas un problème.
Est-ce d'après vous, vous êtes une journaliste d'investigation, je l'ai dit, vous avez dû donc vous intéresser à ce genre de sujet depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a un autre exemple, un exemple comparable de scandale financier dans le monde depuis le début du siècle?
De son ampleur, non. De cette ampleur, non, ça c'est impossible. Là, c'est pas possible parce que on n'a jamais vu une telle somme d'argent. Moi, j'ai calculé 135 milliards de francs. Si vous prenez un billet de 100 francs, 15 cm sur 8 ou 16 cm sur 8, si vous les mettez bout à bout, ça fait 149 000 km. 4 fois le tour de la Terre. Non mais mettez, faut réaliser. Oui. Ça fait une fois et demie la France en superficie. Hein, vous couvrez la France de billets de 100 francs. Là. Faut imaginer. On n'a jamais vu une telle somme d'argent. Trois fois le déficit de la sécurité sociale. La moitié de l'impôt sur le revenu sur une année. Enfin, vous vous rendez compte, c'est aberrant. Et attention, moi quand je dis 135 milliards, c'est la partie visible de l'iceberg.
C'est ce qu'on appelle le plus grand scandale financier depuis 2000 ans avant présent.
Oui, mais le gros avantage va nous permettre de rentrer dans les records du Guinness.
Ah, voilà.
Ah, oui. Mais il faut dire le positif du négatif.
Vous m'offrirez le Guinness.
Pourquoi, avec vos droits d'auteur, vous n'espérez pas avoir les moyens de vous l'offrir?
Oh, les droits d'auteur, vous savez, j'ai jamais vraiment compté là-dessus. Ouais, sinon, je serais riche depuis longtemps.
Dernière chose, le livre, quand vous l'avez apporté à votre éditeur, quand vous l'avez publié, vous l'avez montré à un avocat, vous avez pris des précautions?
Non, on n'a pas eu le temps, il faut être honnête. Si le Crédit Lyonnais veut nous tomber dessus, on n'a pas eu le temps.
Ouais. Non, mais ça n'a pas l'air de vous effrayer beaucoup.
J'ai rien à perdre. j'ai rien à moi.
les hommes heureux n'ont rien à perdre, c'est vrai.
Voilà.
Un auditeur nous dit, est-ce que M. Lévesque n'était pas le patron de Paribas au moment de la nationalisation?
Non, ça c'était Abrère qui était à Paris.
C'était Abrère qui avait fait virer des avoirs dans une filiale suisse.
Ah bah c'est pas véritablement des avoirs, c'est qu'il y avait une filiale suisse de Paribas et qu'effectivement cette filiale suisse, on la retrouve dans la nébuleuse de la société d'un des deux Italiens, Florio Fiorini. Tout est mélangé. Ouais. Puis attendez, ça va aller beaucoup plus loin parce que quand on va s'apercevoir. Alors là, je dis ça sous le sceau du secret, avant que personne ne m'entende, que la fameuse banque IBI au Luxembourg a servi à faire transiter des fonds d'argent sale pour le Parti Républicain du Guinée.
Non,
Monsieur Carignan, du côté de Grenoble, a vérifié.
Oui, c'est une hypothèse, mais dictée par la malveillance.
Tout à fait.
Mais alors, un auditeur nous dit, est-ce que François et les 40 voleurs ont trempé dans l'affaire du Crédit Lyonnais?
Non, le livre de Montaldo, je l'ai lu, il est très gentil, mais...
Non, c'est pas ça.
Il est loin de tout ça.
Non, mais en plus, oui, il n'était même pas sur écoute. Vous avez vu qu'il n'y a pas son nom parmi les...
Il est pas crédible.
Non, moi, je suis sur écoute récemment parce que c'est très amusant. Ça, les RG ont téléphoné très officiellement à l'éditeur il y a deux jours.
En demandant votre numéro de téléphone.
En demandant un service de presse, donc un livre gratuit. Demandant qui on était, les numéros de téléphone, etc. Donc,
Vous savez que c'est à ça qu'on voit que les finances de l'État sont en mauvais état, si j'ose dire.
C'est qu'ils n'ont plus les moyens.
Les RG vous demandent, ils n'ont pas les moyens d'aller acheter dans une bonne librairie votre livre. Et l'autre jour, le ministère de la Justice m'a téléphoné enfin un représentant, pas tout le ministère, un représentant du ministère de la Justice me téléphone. Je dis, ça y est, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Et bonjour monsieur, voilà, je vous téléphone parce que nous aimerions recevoir 3 services gracieux de votre journal.
Ça fait beaucoup.
Écoutez, je pensais moi que le ministère de la Justice avait moyen de s'abonner aux journaux. L'Élysée prenait 400 abonnements au Monde. Vous pouvez bien prendre 3 abonnements au Libre Journal.
Ah ben, je peux vous amuser également, c'est que le service de presse du Crédit Lyonnais a téléphoné pour avoir un livre gratuit.
Oui, mais ça décemment.
Un certain monsieur Olivier Perrin.
Si le Crédit Lyonnais était déclaré en faillite, que se passerait-il pour les clients ?
D'abord, c'est impossible que le Crédit Lyonnais soit déclaré en faillite, puisque c'est une banque publique, donc c'est la parole de l'État. Si le Crédit Lyonnais était en faillite, ce serait l'État français qui serait en faillite. En revanche, c'est évident que les clients vont payer d'une façon ou d'une autre. Là, les agios vont augmenter, les crédits, les découverts vont être taxés.
C'est bien normal.
Les chèques vont payer. Ça, ils sont complices, ils avaient qu'à pas y être. Je leur conseille d'aller ailleurs, ça c'est clair. Faut bien se rendre compte. En ce qui concerne les petits porteurs, les clients, ils devraient se faire entendre. Le Crédit Lyonnais a à peu près 5 millions de clients. Si vous mettez 5 millions de clients qui déposent chaque année, chaque mois environ 5 000 francs en moyenne sur un compte, ça fait 25 milliards tous les ans. Quand on s'appelle le Crédit Lyonnais, on est sûr de recevoir 25 milliards par an. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le marché interbancaire, on dit voilà, j'ai 25 milliards, je vous les engage à 3 ans. Ouais. Il les prête cet argent des petits porteurs, il les prête, il va recevoir 40 milliards de dollars 3 ans ou 4 ans plus tard auprès de quelqu'un d'autre. Les petits porteurs devraient se faire entendre. Ou alors qu'ils ouvrent un compte auprès des services fiscaux. C'est encore le plus simple.
Oui,
Trésor public. On n'a pas de problème. Dans la mesure où on ne peut pas être découvert au Crédit Lyonnais et que ça nous coûte très cher, vaut mieux ouvrir un compte au Trésor public. Une fois que vous payez vos impôts avec un chèque du Trésor public, vous allez voir, vous n'avez aucun problème. Ils ne vont jamais vérifier votre feuille d'impôt.
C'est une bonne idée.
Les chéquiers sont gratuits. Les gens sont sympas, ouverts. Ça les amuse de voir des clients. Ils en voient tellement peu.
Et puis ça fait chic, ma femme me disait tout à l'heure, mais on a beaucoup d'abonnés qui sont des employés des impôts. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais il y a beaucoup de chèques du Trésor public. Et en fait, c'est parce que ce sont des abonnés qui ont des comptes au Trésor public. Personne n'y pense à ça.
Personne n'y pense, mais c'est une excellente idée. Moi,
c'est patriotique en plus.
Vous payez avec un chèque du Trésor public, personne ne vous demande votre carte d'identité.
Vous qui êtes un journaliste de radio, vous allez certainement abonder dans mon sens. Il faut faire très attention à ce qu'on dit à la radio, parce que... notre ami Chériguès nous dit Monsieur de Beaumont était responsable de la banque de Cochinchine, quelque chose comme ça. Et moi je dis, ah oui, les piastres, parce qu'en Cochinchine c'est les piastres. Immédiatement on a un coup de téléphone furibard qui nous dit, prétendez-vous que Jean de Beaumont a touché dans le scandale des piastres, il faudra en faire la preuve. J'avais dit une chose pareille.
Non.
Simplement, il a dit, mon ami, que Jean de Beaumont avait été président de la banque de Cochinchine.
Il a été député de la Cochinchine et président de la banque de Cochinchine, voilà. Président d'Adosuez, dont le secrétaire général était Bousquet.
Voilà.
Allons-y.
Et moi, j'ai dit, ah oui, les piastres, parce qu'en Cochinchine, c'était des piastres. Bon, si ça avait été en Espagne, j'aurais dit, ah, les pesetas.
Voilà.
Comme, vous savez, les gens qui sont cultivés, vous leur dites, je suis allé en Grèce. Ah oui, le Parthénon.
Voilà.
Je suis allé à Paris, à la Tour Eiffel, c'est ça. C'est ce niveau-là, on n'accuse personne. Bon. Je ne sais même pas qui c'est Jean de Beaumont, alors c'est vous dire. Parce que moi, je ne suis pas un mauvais cheval.
Vous perdez. C'est un monsieur très intéressant,
voilà.
Jean de Beaumont.
Oui. Ah, oui. Bon, et ben, écoutez, j'ai pour l'instant pas le temps de creuser la question, mais...
On le fera venir ici.
Oui, je pense qu'il viendra avec plaisir. Gérard Pouradier et Fabien Perruca. Perruca ou Perruccia?
Perruca.
Perruca, bon, ça c'est comme il veut. Crédit Lyonnais, le casse du siècle. Alors, je vous recommande la lecture de ce livre parce que, d'abord, il est très clair. Ensuite, il est très, très marrant à lire. Il est écrit d'une plume alerte et amusante. Il y a des silences qui sont plus éloquents que des phrases entières, notamment quand vous rapportez le contenu de certaines réunions qui se sont déroulées devant la commission d'enquête et où, à un moment, le gars dit... le gars qui est interrogé dit, alors attendez, je vais vous le lire, je crois que je vais... Voilà, c'est ça, c'est extraordinaire, vous allez voir, ça donne un aperçu lumineux de la façon dont ces gens-là pensent et se comportent. Je vous rappelle que ça se passe quand même 2 siècles après la Révolution qui a supprimé les privilèges, hein, faut pas oublier ça. Alors voilà, on pose une question à monsieur Jean-Yves Abrère, et voilà ce qu'il répond. On m'amène là à parler d'un dossier que je n'ai jamais géré et qui était le dossier d'un client dénommé. Je souhaite donc que cela ne figure pas au procès-verbal, car c'est tout de même le secret bancaire. Cependant, je peux vous en dire quelques mots. Point. Et les auteurs ajoutent, Ce fut là tout à la fois la dernière réponse de Jean-Yves Aubrère, dont nous n'aurons pas à connaître car couverte par le secret bancaire, et la fin des auditions de la commission d'enquête parlementaire. Ce qui veut dire que vous avez une commission d'enquête parlementaire qui enquête sur le plus grand scandale financier, monétaire, bancaire du siècle, et qui reçoit un des responsables de ce scandale, M. Aubrère, et qui lui dit, en fait, où t'as foutu le magot ? Hein, ça revient à ça, pour simplifier. Et le mec dit, je veux bien vous le dire, mais je veux pas que vous le répétiez. Les gars disent, oui, oui, tout à fait d'accord. Alors tu nous le dis, mais on le dira à personne. Voilà comment fonctionne ce pays.
Ce qui est encore plus fabuleux, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec les députés de la commission d'enquête, et que on s'aperçoit bien qu'ils ont bouclé leur rapport au mois de juillet 94, ils n'avaient toujours rien compris
de ce qui se passait.
Mais depuis qu'ils ont lu ce livre, ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup appris.
Voilà. Alors soyez au moins aussi bien informés qu'un député. Lisez Crédit Lyonnais, le casse du siècle, de Fabien Perruca, Gérard Pouradier, aux éditions Transparence. Alors c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. C'est-à-dire que si c'est pas en vente, c'est que c'est pas une bonne librairie. Je peux pas vous donner l'adresse des éditions Transparentes parce que apparemment elle n'est pas transparente.
Manque de transparence.
Alors Gérard Pouradier a écrit, on va citer les autres livres, La Thaïlande aujourd'hui, La Malaisie aujourd'hui, Béret bleu destination Phnom Penh, qui était un roman reportage, et Fabien Perruca, Le manuel de l'écrivain néophyte, Les mémoires du XXe siècle et La France du XXe siècle de A à Z. Donc c'est un programme, mais il n'était pas tout seul, hein, c'est un ouvrage collectif. Voilà.
Non, c'était pendant le avant.
Comment ?
C'était pendant le avant.
C'était pendant le avant, c'est ça. Oui, c'est oui. Serge de Becquetch et son invité, nous dit une auditrice, se réjouissent des malheurs du Crédit Lyonnais jusqu'à ce qu'il y ait des dirigeants sociétaires. Non, mais voilà, c'est la radio qui fonctionne comme ça. C'est pas de la faute des auditeurs et c'est pas de la faute des parleurs. C'est le média, le médium, la radio, qui est un médium distordant. Tu vous dites, blanc, les gens au téléphone en disant, vous avez quelque chose contre le noir ?
Quelle est la réflexion de cette auditeur ?
Alors donc, se réjouissent des malheurs du Crédit Lyonnais jusqu'à ce qu'il ait des dirigeants socialistes, le Crédit Lyonnais faisait des bénéfices. Ce sont les électeurs qui les ont mis là et cela risque de mettre 45 000 personnes à pied. Mon mari, qui est cadre au Crédit Lyonnais, est écœuré de voir ce qui se passe dans cette banque. Ne croyez pas qu'il n'y a que les contribuables qui payent les pots cassés. Oui, c'est vrai, on a oublié de dire ça. Les cadres et les employés ont vu leur salaire. Les cadres supérieurs ont vu leur salaire amputé d'une somme importante, mais cela, personne ne le dit.
Alors là je peux faire un dernier point avant de passer la page du Crédit Lyonnais. Mais pour cet auditeur ou cette auditrice, je peux faire un point très très important. C'est que Jean-Yves Aubrère, qui a été nommé à la tête du Crédit Lyonnais par Pierre Bérégovoy, était socialiste, oui, mais Jean-Yves Aubrère est tout ce qu'il y a d'homme de droite. Ça, il n'y a pas de problème. Et ce qui s'est véritablement...
Ah, en tout cas, il n'est pas au Front National, pas que je sache.
Non. Hein? Ce qui s'est véritablement passé, c'est que les socialistes pensaient qu'un homme de droite serait plus apte à gérer les finances qu'un homme de gauche.
Ils sont décidément aussi... Coin qu'on peut le rêver.
En termes de licenciement, c'est combien de milliers de personnes envisagées ?
On parle de le chiffre officiel pour l'instant est de 3500 à 4000. Il est évident qu'il va monter très rapidement à 8000 et on pense qu'il y aura 10 000 en tout.
Sur 42 000
C'est M. Perlevat qui va être obligé de tenir le guichet.
42 000 sur 45 000 employés.
45 000, voilà.
Ils sont en train de réduire le nombre de bureaux du Crédit Lyonnais à une vitesse grand V.
Le prochain ministre du Travail, il va s'amuser.
Et alors, juste pour rire, ce message d'un auditeur, parce que là, on atteint le grandiose dans le surréel. Hein. Monsieur Pouradier a dit que Monsieur de Beaumont est impliqué dans les affaires du Crédit Lyonnais.
Oh là là.
Et on en conclut hâtivement que la plupart des grandes familles sont des escrocs et conservent leur fortune dans des comptes en Suisse. Je vous en prie, ne généralisez pas et ne couchez pas et ne concluez pas hâtivement que parce qu'il y a un canard boiteux, tous les gens de la noblesse sont de la même espèce.
Ah mais non, mais moi, si on me montre une grande famille, donc une famille importante, élargie, riche, bourgeoise, qui a fait toute sa fortune honnêtement, sans faire suer le burnou à qui que ce soit, je serais ravi de faire un livre spécial sur cette famille. Véritablement, je m'engage solennellement à le faire.
On va chercher.
Une seule famille.
Mais Jean de Beaumont n'est pas un membre de la grande aristocratie, donc la question est sans effet. Et pendant.
Voilà. Je ne sais pas pourquoi on s'en prend à Jean de Beaumont. Vous en prenez à Jean de Beaumont avec une telle énergie. Bon. Merci Gérard Pouradier. Je répète encore une fois le titre du livre qu'il faut lire. Crédit Lyonnais, le casse du siècle aux éditions Transparence. Voilà. Reynald Secher, merci de vous être intéressé à la conversation, mais On va complètement changer de sujet avec vous. On va non pas qu'avec Pouradi, on était dans la fange parce que c'est pas de sa faute, c'est le sujet qu'il voulait. Mais avec vous, on va sortir et s'aérer un petit peu et ça va nous faire du bien car vous venez nous parler de votre passion, enfin d'une de vos passions. Tout le monde vous connaît sur Radio Courtoisie, vous y venez souvent.
Avec beaucoup de plaisir.
C'est gentil de le dire. Et vous êtes, on sait que vous êtes l'historien de la Vendée, que vous êtes un universitaire en rupture de conformisme. Mais ça, c'est votre côté officiel, je dirais. Puis vous avez un côté, non pas secret, mais un jardin personnel, un jardin discret, qui est la passion de votre pays natal, de vos racines et des traditions, et des traditions de la pierre. Et vous avez entrepris, il y a quelque temps, de ressusciter, on peut le dire, une chapelle, la chapelle Basse-Mère, à la chapelle Basse-Mère, c'est ça?
Ah oui, la chapelle Saint-Pierre.
Saint-Pierre à la chapelle Basse-Mère, voilà. Alors, je voudrais que vous nous fassiez un point rapide de la résurrection de ce monument ou de ce bâtiment.
Alors, en quelques mots...
De cet édifice sacré, on doit dire.
De cet édifice sacré. En quelques mots, la commune de la Chapelle-Basse-Mère est une commune comme tant d'autres communes à l'ouest, sauf qu'elle a la spécificité d'être une commune à la fois bretonne et vendéenne. Bretonne parce que vous êtes à la limite du territoire du duché de Bretagne et que la frontière du royaume de France était à 50 mètres.
C'est un peu comme le Mont-Saint-Michel.
C'est un peu comme le Mont-Saint-Michel, mais qui est à l'étranger, lui, par rapport à la Bretagne.
C'est
il est en Normandie.
Enfin, c'est les Normands qui le disent.
Oui.
Les Bretons disent.
Il voudrait bien l'avoir. Oui. Vendéenne parce que c'est la première paroisse nord de la Vendée militaire. Et c'est une commune qui a particulièrement souffert du génocide, puisque cette commune, sur 3500 habitants, a perdu à peu près 800 habitants. Et en termes d'habitat, elle a perdu 362 maisons sur 1072, et en termes de valeur, 51% de la valeur. Bien entendu, tous les édifices cultuels ont disparu, à l'exception de deux petites chapelles qui ont échappé à la destruction systématique uniquement en raison de leur localisation, soit proche de la Loire, soit vraiment à l'intérieur des terres. Et malheureusement, si une des deux chapelles a traversé le 19e et le 20e siècle sans problème, la deuxième chapelle, elle, malheureusement, s'est écroulée avec le temps. Et c'est un très bel édifice du 16e siècle, qui a été fait avec des pierres de schiste. Et malheureusement, lorsqu'on a réussi à la racheter il y a 2 ans maintenant, il n'y avait plus de toiture et une bonne partie des murs s'est effondrée. Et l'année dernière, donc, on a décidé, entre autres avec l'aide de cette radio, de la reconstruire. Et nous avons créé un camp de jeunes avec un chapitre, le chapitre Saint-Pierre-Chanel de Paris, Versailles plus exactement. Et nous avons passé 15 jours sur le site avec à peu près 50 personnes. Et nous avons démonté les murs de la chapelle et nous les avons ensuite remontés à l'ancienne et à la romaine. Et on a injecté là-dedans quelque chose comme 46 tonnes de sable, de béton, de ciment, de chaux, etc. Et tout s'est très bien passé. Et cette année, nous allons effectivement terminer le chantier. Vous rendez compte, on aura restauré une chapelle de 100 mètres carrés. C'est pas n'importe quoi, 100 mètres carrés, en 2 saisons, uniquement avec des petites équipes de jeunes. L'année dernière, je vous disais, ils étaient 50. Et donc, cette année, nous passons à la deuxième phase, qui sera d'ailleurs la phase terminale pour ce qu'on appelle, en termes de métier, parce que je suis devenu un technicien, le gros œuvre. C'est-à-dire que cette année, nous posons aussi bien la charpente que la toiture.
Proprement. Ça s'appelle la mise hors d'eau.
La mise hors d'eau sera totale.
Ah, bon.
Et lorsque je vous dis que le gros œuvre est fait, nous avons changé toutes les pierres des portes et des fenêtres. Donc la chapelle est vraiment restaurée selon les traditions. Et lorsqu'on la voit maintenant, on prend conscience de la beauté et de l'importance de cette chapelle.
Alors, ce travail de mise en place de la construction de la charpente et mise en place de la toiture, ça nécessite la collaboration, encore une fois, de bénévoles.
Bien entendu. Donc, c'est un appel, en fait, au public. Nous avons besoin encore de jeunes. Le camp va se dérouler du 14 juillet au soir, qui est une fête en Vendée importante, puisque c'est la mort de Catelineau. Et la restauration va s'étaler jusqu'au 2 août. Pourquoi le 2 août? Uniquement parce que c'est le lendemain du 1er, et le 1er, c'est la fête de Saint-Pierre Eslien, c'est-à-dire le saint auquel est consacrée la chapelle. Alors donc, nous avons besoin de jeunes, donc il faut nous contacter. Je vais vous donner mes coordonnées personnelles. Donc, Rénald Secher, je suis en Bretagne, bien entendu, avec un nom comme le mien.
Oui, ça, c'est étonnant que ça soit je sais pas où, enfin ailleurs.
Ailleurs. Faites attention parce que je peux
réagir. Je deviens très prudent.
39 boulevard Barbeau, B-A-R-B-O-T, 35530 Noyal-sur-Vilaine, c'est la banlieue de Rennes, donc je répète, 39 boulevard Barbeau, B-A-R-B-O-T, 35530 Noyal-sur-Vilaine.
Donc alors, là, on vous écrit, on vous envoie un mot en disant j'aimerais participer.
Voilà, et puis on vous fixera réellement les conditions.
Combien ça rapporte?
Combien ça rapporte quoi?
Oui. Bah, le travail, là.
Non, combien ça coûte
Ah oui, pardon.
À celui qui va travailler sur le site. Oui, comment dire, oui, effectivement, il y a une cotisation à payer, mais tout ça sera fixé par la suite. Mais à l'extérieur de ça, on a besoin aussi d'un certain nombre de choses. On a besoin, par exemple, j'étais en train de comptabiliser tout ce dont on avait besoin, on a besoin de 6000 ardoises. Que vous avez toussé, il faut que je répète.
Oui, hein?
On a besoin exactement de 6000 ardoises. Donc si vous connaissez un généreux donateur qui puisse nous donner 6000 ardoises, nous sommes preneurs.
Ou 6000 personnes qui vous donnent chacune une ardoise.
C'est...
Moi j'en ai deux ou trois, mais il faut que je fasse le tour des restaurants de Paris. Il faut que je fasse le tour des restaurants de Paris.
On a besoin aussi de 6000 crochets. On a besoin aussi... alors là, on a besoin...
Est-ce que vous savez ce que coûte une ardoise?
Oh, une ardoise doit coûter quelque chose comme 5-6 francs, je présume.
Hein? Donc, si on veut vous envoyer 10 ardoises, il y a deux solutions. Ou on achète 10 ardoises et on vous les envoie, mais le port coûte plus cher que... Ou on vous envoie 60 francs,
oui,
ou 50 exemple. Francs, ce qui veut dire que vous achèterez vous-même 10 ardoises.
Ça oui, aussi, oui, oui effectivement, vous avez raison.
Hein? Pensez à ça. Oui, une ardoise, vrai. C'est 5-6 francs.
5-6 francs, oui.
Voilà, donc ouais. Si vous envoyez 5 francs, vous payez une ardoise... pour la chapelle Saint-Pierre de la chapelle Basse-Mer, qui est une chapelle donc de la tradition vendéenne, qui est en cours de restauration par des bénévoles. J'ajoute que si, au lieu de 6000 auditeurs de Radio Courtoisie qui enverraient chacun 5 francs pour acheter une ardoise, il y a 6000 auditeurs de Radio Courtoisie qui envoient chacun 50 francs, vous n'allez pas acheter 60 000 ardoises. Du
non.
Coup, vous achèterez 6000 ardoises et puis autre chose.
Oui, on achètera, donc, ça nous aidera à financer la charpente.
Des crochets.
Et les crochets, bien entendu.
Alors, par exemple, un crochet, ça doit valoir 2-3 francs, je pense.
Alors là, je n'en ai pas du tout la moindre idée.
Supposons 3 francs. Donc, si vous envoyez 10 francs, vous savez que vous achetez une ardoise et un crochet pour la chapelle Basse-Mer. Quand vous irez à la chapelle Basse-Mer et que vous verrez la chapelle Saint-Pierre, vous direz, il y a une de ces ardoises sur le toit, c'est moi qui l'ai posée, qui l'ai payée.
Et vous... Oui, non, mais c'est une excellente idée. Oui.
Mais non, mais c'est ça, qui, parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer 100 000 francs ou 10 000 francs, tout le monde n'est pas Monsieur Abrère.
Donc, et on a besoin aussi d'un certain nombre d'autres choses, par exemple de chaises ou de bancs. Si vous connaissez des bancs d'une ancienne chapelle ou d'une ancienne église qui ne servent plus, nous sommes preneurs. Nous sommes aussi preneurs de dalles de granit pour le sol, parce que nous n'avons plus le sol qui a été volé apparemment, ou en tout cas qui a disparu. Nous avons besoin aussi d'une main-d'œuvre spécialisée. Si pendant les vacances, vous ne savez pas que faire, si vous êtes couvreur ou si vous êtes charpentier, pour encadrer le camp, nous sommes preneurs. On aurait besoin de 2 ou 3 couvreurs, mais spécialisés en ardoise.
Jean-Paul Chergues de Olmeta est très très fort, je crois, comme couvreur.
Oui.
Vous avez été couvreur assez longtemps.
Je taillais la pierre brute. Oui.
Et on a besoin aussi de charpentiers pour nous aider à monter la charpente. Et on aurait aussi besoin d'un menuisier pour nous faire les portes. On a 2 portes à faire, et selon la tradition, bien entendu.
Moi, je connais le meilleur menuisier du monde, mais je ne suis pas sûr qu'il voudra aller à la chapelle Basse-Mer. C'est Monsieur Michaud. Non, mais je plaisante pas, c'est un menuisier de génie.
Ah oui?
Ouais. Mais c'est un secret de famille, ça, je ne le confierai pas à n'importe
qui. Bon, en tout cas, si vous êtes menuisier ou si vous connaissez un menuisier qui serait prêt à travailler bénévolement pour nous faire 2 portes, nous sommes preneurs. Et au-delà de ça, nous recherchons aussi bien entendu des objets cultuels, et l'idéal serait d'avoir des objets cultuels ayant appartenu à des prêtres réfractaires. Et nous arrivons à l'objectif de la chapelle, parce que restaurer une chapelle pour une simple restauration et pour en faire une grange à foin, ce n'est pas intéressant. Par contre, restaurer une chapelle pour la rendre au culte, là, ça devient intéressant. D'autant plus qu'on est propriétaire du terrain qui entoure la chapelle. Mais au-delà de cette finalité, il y a une autre finalité de fond, c'est de faire de cette chapelle le mausolée du génocide de la Vendée.
Ah, c'est une très très belle idée.
Et pourquoi faire le mausolée du génocide de la Vendée? De la Vendée militaire, j'entends, hein, c'est-à-dire que ce monument va rappeler l'extermination programmée de l'ensemble de la Vendée militaire. Eh bien, parce que localement, nous avons la chance d'avoir sur l'ensemble du canton, qui est composé de 5 communes, dont le Lourbeautreau, La Romaudière, La Chapelle-Basse-Mer, Saint-Julien-de-Concel et Barbechat, nous avons la chance d'avoir la liste intégrale des gens qui ont été exterminés. Et nous voudrions, si évidemment nous avons l'argent nécessaire, mettre ces noms sur des plaques de marbre qui seraient incrustées dans les murs. Vous voyez, donc ça c'est vraiment la finalité des finalités.
Très beau,
et si on a encore un peu plus d'argent, on érigera dans l'espace environnant, et nous avons déjà érigé 2 croix cette année. Je peux vous dire que c'est sans doute les seules croix qui ont été érigées cette année à l'ouest. Nous avons érigé 2 croix de pierre, dont une est consacrée à Saint-Pierre Chanel, puisque c'était le chapitre qui lui était dédié. Et l'autre a été érigé en souvenir de l'abbé Robin, qui était le prêtre réfractaire, une des seules croix en Vendée militaire qui était dédiée à un prêtre réfractaire. Eh bien, si nous avons de quoi financer un peu plus, nous financerons une statue qui sera érigée à la mémoire de la femme exterminée. Parce qu'il faut se rappeler que la guerre de Vendée, au-delà du génocide, c'est l'extermination programmée de la femme en tant que sillon reproducteur.
En tant que ventre, il fallait tuer les ventres.
En tant que ventre. Et cette femme sera représentée à genoux. Nous avons déjà le sculpteur. Le budget est important. C'est un budget de l'ordre de 260 000 francs. Nous avons déjà le sculpteur et nous avons le croquis de cette sculpture qui représente une femme agenouillée tenant vers les cieux un enfant. Alors bien entendu, là il y a toute une symbolique, la Vierge et l'enfant, la mère et l'enfant, mais à travers ce geste, c'est la pérennisation de la mémoire, c'est aussi la transmission de ce drame qu'a connu la Vendée.
Ben, vous voyez, on a déjà beaucoup d'appels d'auditeurs qui nous disent rappeler l'adresse, alors qui donnent des conseils. Il y a un auditeur qui dit, moi j'ai couvert le toit de ma maison, une auditrice qui dit, j'ai couvert le toit de ma maison avec des ardoises d'Angers, c'est pas le prix que vous dites.
Ah oui, alors oui, alors, je ne sais pas exactement.
Alors, c'est probablement plus cher, donc c'est envoyer plus d'argent, voilà,
ah
c'est
oui,
tout,
bon.
C'est aussi simple que ça. Un auditeur nous dit, attention, il faut demander des crochets d'ardoises en cuivre, car les crochets en fer se détériorent et se cassent.
Et cet auditeur a d'autant plus raison que cette chapelle se situe à côté de la mer, pas loin de la mer, pas loin de la Loire,
ouais,
en tout cas.
Alors, justement. Hein. Et puis un auditeur nous dit, vous devriez pour les ardoises vous adresser à Bernard Tapie, qui doit en avoir pas mal. Donc,
lui, il vit au crochet de ses ardoises.
En plus.
Alors, on rappelle l'adresse.
Alors, justement, donc, une auditrice dit, rappelez-nous l'adresse.
Alors, il faut envoyer ça à une association, puisque, en fait, c'est une association qui gère ce travail, qui s'appelle Association Mémoire du Futur. Donc, ça veut dire tout ce que cela veut dire. Donc, Mémoire du Futur, 39 boulevard Barbeau, B-A-R-B-O-T, 35530, Noyal-sur-Vilaine. N-O-Y-A-L, et Sur-Vilaine, c'est le grand fleuve breton. Donc, je répète, Association Mémoire du Futur, 39 boulevard Barbeau, 35530, Noyal-sur-Vilaine.
Et les chèques sont à rédiger à l'ordre de Mémoire du Futur.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
Voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire si vous désirez participer à l'œuvre qu'a entreprise Reynald Secher avec ses amis.
Peut-être préciser que si les choses doivent aller comme elles doivent aller, hein, eh bien, nous inaugurerons cette chapelle l'année prochaine. Et on a choisi la date. A priori, ce serait le 1er août 1996.
Belle date.
Belle date.
Bah écoutez, on en reparlera plusieurs fois de ça. Et la dernière question, je ne vous la pose pas, mais je la dis au micro pour redire ce que je ne cesse de répéter. Alors cette question, c'est Monsieur Secher, vous qui êtes vendéen, que pensez-vous de Philippe de Villiers? Et je ne pose pas cette question à Renald Secher parce que Renald Secher n'est pas venu nous parler de ça ce soir. Il est venu nous parler d'histoire, il est venu nous parler de sa chapelle, et je crois qu'il n'est pas utile de tout mélanger, parce que il a le droit naturellement d'avoir sur Philippe de Villiers l'opinion qui lui convient. Il a même le droit de venir en parler un autre jour s'il veut. Mais on ne peut pas à la fois exposer des opinions politiques et le même jour et exposer un projet de qui est un projet par définition unitaire, un projet communautaire, qui consiste à dire on va tous se mettre ensemble pour redresser un monument du passé. Parce que je pense que je ne sais pas, je ne veux pas me mettre à votre place, Renald, mais je non, pense mais que je ne demanderai répondre, pas aux constructeurs
assez facilement s'ils appartiennent à telle ou telle partie. Vendéen. Donc, moi, Philippe de Villiers, c'est avant tout le président du Conseil général de la Vendée. Bon, alors ça, je peux y répondre. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires politiques nationales. Ce n'est pas le moment. Je vais vous surprendre. Pour moi, Philippe de Villiers, au niveau de la Vendée, est une chance historique. Depuis que Philippe de Villiers est là, la Vendée a été transformée.
Voilà. Hein.
Il suffit d'y aller pour le comprendre. Et surtout, Philippe de Villiers a redonné une fierté à la Vendée. Ça, alors, il faut bien en prendre conscience.
Je vais ajouter mon commentaire personnel. Ce que dit Renald Secher, j'ai pu le vérifier en allant dans cette région. C'est vrai qu'il a magnifiquement réussi dans sa région. Et ce serait vraiment dommage de l'en retirer. Voilà. Non, je dis bien que c'est un commentaire personnel que je fais moi. Ce serait dommage de priver la Vendée d'un personnage aussi éminent. Écoutez.
Il faut voir tout de même, hein, la Vendée a été bouleversée par sa venue. La Vendée est en reconstruction à l'heure actuelle,
oui.
Au niveau des entreprises.
C'est indiscutable, mais je le dis sans aucun...
Il ne faut pas oublier tout de même que la Vendée militaire, alors là c'est l'économiste qui parle, c'est la plus grande concentration en France de PME et de PMI, et qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la sanction avait été telle qu'en Vendée militaire, il n'y avait pas d'infrastructure. Alors Olivier Guichard, en tant que président du Conseil régional, avait commencé déjà à percer des axes de circulation, dont un axe allemand d'ailleurs, c'est très spécifique, c'est très rapide. Et Philippe de Villiers en Vendée a œuvré, a terminé cette œuvre. Et là, enfin, les Vendéens ont une infrastructure qui répond à la demande des entreprises.
Merci Anne Secher. Alors je rappelle encore une fois l'adresse de l'association à laquelle on peut envoyer à la fois des ardoises, des clous, des instruments du culte. Des chèques, mais le plus simple, c'est quand même d'envoyer des chèques, je crois. Alors, c'est donc Mémoire du Futur, 39 boulevard Barbeau, B-A-R-B-O-T, 35 530, Noyal-sur-Vilaine. Mon cher Jean-Paul Chériès de Le Métal, il vous reste quelques brèves minutes, hélas, pour nous dire...
Il reste rien, bon, c'est pas grave.
Si, il reste quelques brèves minutes pour nous dire... Vous revenez d'Espagne, vous avez vu ce mariage. Alors, je vous poserai une seule question. On ne va pas vous demander de faire le reportage du mariage.
Ça a été fait déjà.
Oui, il a été fait par la télévision. Et il a été mal commenté d'ailleurs par M. Mitterrand, qui n'a pas toujours le même talent. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que ce mariage royal permettait l'expression, ou plutôt la manifestation d'un véritable sentiment de... d'appartenance identitaire et royaliste en Espagne?
Eh bien, c'était d'abord un mariage de famille avant d'être un mariage royal, et tous les Espagnols se sont retrouvés pour une parenthèse de 48 heures derrière la famille royale, et j'en ai retiré le sentiment que j'ai toujours quand je vais en Espagne. La monarchie, c'est pas forcément ça, mais le Juan Carlisme, ça marche très fort. Et c'est le mariage en est le témoignage vivant. Les Espagnols, ils sont monarchistes, comme ça, dans le fond, ils n'ont pas eu beaucoup de systèmes politiques depuis 45 ans. Mais ils sont Juan Carlistes, et de plus en plus. Et le mariage en était la preuve. C'était la liesse, mais la liesse de bon ton. Et le mariage lui-même était un mariage grand bourgeois. Il n'était pas tellement royal dans son déploiement. Vous aurez remarqué que les messieurs en uniforme portaient pas d'épée, que les dames n'avaient pas de chapeau, que c'était pas en robe longue. C'était plutôt bon enfant distingué.
Est-ce que vous avez été choqué par le fait que la mariée n'a pas demandé l'autorisation de papa avant de convoler?
Étant donné qu'on ne s'est pas intéressé à la pragmatique de Charles III, qu'elle n'a pas renoncé à ses droits pendant qu'elle y était, je ne sais pas pourquoi elle aurait, se serait donné ce petit supplément de protocole. Personne n'y a fait attention, sauf les journalistes.
Oui, c'est un petit peu leur travail.
En principe, oui. Puis personne ne s'en rappelait, le roi n'était pas choqué, apparemment.
C'était beau, vous étiez content.
C'est très beau. Et j'ai regardé la cassette, je trouve que la télé, ce qui a été donné en France, je trouve que la télévision espagnole a fait un très beau boulot. C'était très beau. Bah, c'est Séville, ils ont une chaleur formidable, un soleil terrible, il y a la couleur, les mantilles, les éventails. C'était très beau. Et puis la fête équestre, ça, faudra en reparler.
On reparlera de ça. Vous viendrez parce que vous êtes aussi un spécialiste du cheval.
J'essaye.
Et donc, oui, je voudrais qu'on en parle. C'est un des plus beaux spectacles qu'on ait vu de l'école andalouse. On va pas en parler ce soir, mon cher Daniel Amiche, qui piaffe comme un cheval de l'école andalouse.
Il a sûrement des choses à dire sur le mariage, notre ami Daniel.
Oui, mais ça fera probablement des choses moins aimables que vous.
Je le crains.
Michel Blanza, un mot ou deux, sur ce que vous avez trouvé. Oui,
on ne traverse pas une tempête avec autant de, autour de soi une forêt de girouettes.
Je l'avais retenu.
L'intégrisme musulman qui n'a rien à voir avec l'islam.
Ah, ça, c'est quand même. C'est qui, c'est Léotard?
C'est lui, Léotard, c'est Europe 1, le 20 mars. Ça a à faire avec le catholicisme, je pense.
Oui, probablement. L'intégrisme musulman qui n'a rien à voir avec l'islam. Ah. N'oubliez pas que M. Léotard a dit ça.
On continue sur Léotard. Donc aujourd'hui, aucune visibilité à long terme, dit-il. Il demande de voter Balladur. Il a jeté les bases du rayonnement de la France pour les 10 ans à venir. Les bases du rayonnement.
Les bases d'un rayonnement.
Loin de cantonner notre pays dans un espace frileux limité à je ne sais quel précaré, ajoute-t-il. Comprenez ce que vous voulez.
Mais si précaré, c'est une marque de fromage, oui, dans un espace frileux, c'est dans un réfrigérateur.
Non, je termine sur Léo, juste une chose. Je trouve qu'il termine son article par une chose tout à fait regrettable en pleine affaire Maréchal. Le projet qu'incarne Édouard Balladur est fondé sur un respect essentiel, celui de l'écoute des Français. Voilà, c'est Léotard, tel qu'en lui-même.
C'est l'heure aussi.
Merci Michel de nous avoir cité du Léotard, ça lui arrive pas souvent dans cette émission.
Léotard que j'avais.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 22 mars 1995, rediffusé dimanche 11 août 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Je vole quelques minutes à Daniel Amiche et au Fou du Roi pour donner la parole à Marc Dem. D'abord, bonsoir Marc. Bonsoir Marc, êtes-vous avec nous?
Oui, comme vous voyez.
Je voudrais, comme toutes les semaines, que vous nous donniez un petit aperçu du contenu de votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle, je le rappelle, Iota Unum, et qu'on peut se procurer en envoyant une carte de visite ou son adresse simplement à la boîte postale 52 7800 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Alors, de quoi nous parlez-vous dans le numéro qui paraît cette semaine?
Eh bien, il y a d'abord un fait qui est notable, c'est que Iota Unum paraît samedi, et samedi c'est le 25 mars, c'est-à-dire le jour de l'Annonciation. Et le numéro 1 de Iota Unum était paru volontairement le jour de l'Annonciation. Donc en 1989 paraissait le numéro 1, et nous sommes maintenant, les années passant, nous sommes maintenant à la 7e année de parution régulière. Bon, c'est une petite chose à noter. Hein.
Tout à fait, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça tient bon.
Vous vouliez des bonnes nouvelles,
oui.
La presse confidentielle se porte bien.
À quoi d'autre?
Alors, il y a une affaire là sur laquelle je ne peux pas m'étendre, mais qui sera très intéressante à lire pour tous ceux qui se sont intéressés à ce que j'avais dit des traductions, de la traduction française, entre autres, du livre du pape, Entrée dans l'espérance.
Oui.
Alors, j'ai reçu une lettre comminatoire et un droit de réponse des éditions MAM. Et cela m'a enchanté, car les éditions MAM, trouvant que je publie des accusations graves en disant que c'est mal traduit, les éditions MAM se sont donc mises dans un très mauvais pas. Car, comme argument, elles disent ceci, de toute façon, l'édition originale n'est pas l'italien. Or, vous avez comparé avec l'italien. Nous, nous avons travaillé sur le texte, sur le manuscrit polonais du pape. Ce qui est absolument faux, pour une raison très simple d'abord, c'est que c'est écrit dessus, comme pour le Port-Salut, sur leur livre, ils disent que c'est traduit de l'italien. Et ils donnent toutes les références, et ils donnent l'introduction de Vittorio Messori. Alors c'est très drôle, puisque ils vont chercher je ne sais quelle histoire ténébreuse pour se tirer d'affaire, mais j'en profite évidemment pour exposer tout ce qu'il faut savoir sur la question.
Vous êtes un méchant homme.
Je suis méchant.
Oui, parce que les éditions MAM, ça fait au moins 2 millions que ça existe.
J'aime bien les éditions MAM, mais là, je crois qu'on ne peut pas ne pas réagir à ces accusations et surtout à ce droit de réponse qu'on est obligé de passer.
Eh bien, vous avez droit quand même à une troisième, en dépit de votre méchanceté, à une troisième information.
Bon, mais puisque vous voulez des bonnes nouvelles, ben, il y en a peut-être une, c'est que le nombre de nouveaux prêtres augmente en Europe, après avoir subi la décrue que l'on sait. Alors, phénomène constaté dans la plupart des pays, mais plus ou moins bien sûr. En France, ce n'est pas extraordinaire. La palme revient à la Pologne, ce qui ne change pas grand-chose d'ailleurs, mais enfin, quand même, il y avait eu une baisse des ordinations en Pologne, et elle est redressée maintenant. L'Irlande et la Belgique, en revanche, continuent de plonger. Alors, donc, il y a non pas une solution au problème de la pénurie de prêtres, parce que des nouvelles ordinations ne signifient pas que le nombre de prêtres augmente immédiatement, c'est sûr.
Oui.
Avec tous les départs, surtout avec tous les vieillissements, tous les décès qui s'accumulent, puisque le clergé est assez âgé.
Et oui.
Mais enfin, on peut saluer quand même cette...
C'est plutôt une bonne nouvelle. À condition que ce soit de bons prêtres, parce que c'est pas le tout d'avoir beaucoup de prêtres, il faut qu'ils soient bons.
Oui. Enfin, c'est déjà une chose, après on essaiera qu'ils soient bons.
Merci Marc. À la semaine prochaine, on essaiera de vous donner un peu plus longtemps la parole, que j'aurai pas Amiche en face de moi pour me faire les gros yeux. Non, mais je plaisante. En fait, il est souriant et détendu.
Oui. Ah ben oui, toujours souriant.
Toujours souriant. On peut donc en savoir plus en lisant la lettre confidentielle de la formation religieuse Iota Unum, boîte postale 52 78 100 Saint-Germain-en-Laye-Sedex. Merci Marc, à bientôt.
Bonsoir,
et puis je ne peux pas ne pas vous donner quand même un exemple d'analyse politique étincelante, éblouissante que je reçois de la part d'un auditeur. Écoutez bien, je cite, hein. Le Pen ou Villiers, c'est la même chose, jamais Le Pen ne passera, sauf s'il se désiste pour Villiers. Voilà, et ça vote. Qu'est-ce que je voulais dire? Votre nouvel indicatif est abominable, je trouve très bien le nouvel indicatif. Voilà. C'est pas la même personne, hein. C'est deux personnes qui ont appelé successivement, il faut quand même le dire. Alors
une petite annonce, Valérie Delahaye fête la mi-carême demain soir avec le Chœur Montjoie-Saint-Denis, 21 rue Campagne Première, téléphone 43 35 51, je pense, 64.
Oui, ça c'est écrit par...
C'est mal écrit.
C'est écrit avec le pied gauche. Oui, Valérie Delahaye, c'est la mère tranquille, la mère agitée, c'est un restaurant extrêmement sympathique.
Le téléphone de la mère tranquille.
Allez-y de notre part, vous serez bien reçu et vous aurez même peut-être le droit de...
De la mère tranquille, la mère agitée.
La mère agitée, oui, voilà. Je sais bien qu'on ne donne pas d'adresse de restaurant pendant le carême, mais enfin, il faut bien manger.
Mais c'est la mi-carême.
Ah, mais c'est la mi-carême en plus, voilà. Encore autre chose?
L'association Souvenir du 26 mars nous informe qu'une messe sera célébrée le vendredi 24 mars à 18h30 par le révérend père Bayot en l'église Saint-Odile, 2 rue Stéphane Mallarmé dans le 17e. Cette messe sera dite à la mémoire des victimes de la fusillade de la rue d'Isly à Alger le 26 mars 1962 et des martyrs de l'Oranie du 5 juillet 1962.
Alors le docteur Dor appelle toutes les bonnes volontés à se joindre le samedi 8 avril à une manifestation légale, autorisée et pacifique devant l'avortoir ordinaire, 32 rue ordinaire, Paris 15e, de 9h à 17h. Je répète, il s'agit d'une manifestation légale, pacifique, autorisée, qui se déroulera sous protection des forces de l'ordre, donc il n'y a aucun danger. Samedi 8 avril à partir de 9h. Et Vinnie Wurmeling, secrétaire général de l'UNEC, nous rappelle que le pape a déclaré au père Paul Marx, OSB, missionnaire exemplaire pro-vie aux États-Unis, « Vous faites le travail le plus important du monde ». Ceci vaut également pour les sauveteurs français, aidons-les, nous dit Winnie Vermeling. Michel de Poncin dédicacera son dernier livre, « La République fromagère » et l'ensemble de son œuvre à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, 75 005 Paris, samedi 25 mars 95, de 17h à 19h. Et puis, c'est tout.
C'est tout pour vous ?
Non, j'ai dimanche 19 mars, pardon, à Marc, dans le Nord, mais c'est tout près de Paris par l'autoroute, journée de renaissance catholique de l'Institut culturel, à l'Institut culturel donc de Marc. Ça commence à 9h30 avec une grande messe. Ensuite, on a des conférences de François Algou, Mondialisme et perversion des mœurs, Le communisme et le libéralisme contre les nations par Vladimir Volkov, Connaître et défendre la nation française par Georges-Paul Wagner et Le mondialisme contre la nation par Jean-Pierre Mongendre. Ça coûte 50 francs. Ça se passe au centre Charcot, rue du docteur Charcot, Marc-en-Barreuil. C'est à 1h, je crois, par le train.
Oui, quelque chose comme ça.
Une heure par le train.
C'est 1h pour aller à Lille. Et demain soir, alors jeudi 23 mars à 20h15, Jean-Marie Le Pen sera face à la une, à la télé. Et puis, il sera présent aussi samedi 25 mars prochain, place de l'Europe, à 11h, pour une manifestation au sujet des accords de Schengen.
Et puis, dernière chose, le pèlerinage de San Damiano du 31 mars au 2 avril 1995. Il faut s'adresser au voyage Bourmeau, boîte postale 21 85620 Roche-Servière. Le téléphone, notez-le, 51 94 90 71, pour participer au pèlerinage de San Damiano. Merci, pardon, mon cher Daniel. Je crois que je reste pendant la deuxième partie, je suis invité. En tout cas, pour ce qui est de ma partie de direction d'émission, je vous remercie d'avoir fait preuve de tant de patience. À la semaine prochaine et que Dieu nous garde.
Voilà, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci d'être avec nous pour cette 50e chronique des Fous du Roi. Alors c'est un peu une chronique, peut-être pas exceptionnelle, elle va être aussi bonne que les autres, peut-être un petit peu meilleure, même compte tenu de la qualité des invités qui sont réunis ce soir. Enfin, 5 ans, j'ai estimé que ça devait se fêter, parce que c'est quand même, c'est un nombre qui tombe bien. Et alors, c'est pour ça que je vous ai demandé, mon cher Serge, de bien vouloir rester. Vous qui êtes un des journalistes, sinon les plus, du moins les plus écoutés de France, j'ai trouvé tout à fait normal de vous rendre cet hommage et de vous inviter dans votre émission.
Vous êtes bien aimable, M. Amiche.
Voilà, alors ce soir, comme ça, vous ferez un petit peu le candide de la soirée. Mm-hmm. Alors ce soir, nous avons un certain nombre d'invités. Il devait y en avoir davantage. Malheureusement, le dernier qui devait passer est malade. Et puis ce soir, les gens n'auront pas le plaisir non plus d'entendre la charmante voix d'Anne-Laure. Il est de bien dommage qu'on n'ait pas télé-courtoisie, parce que là, oula, franchement, je pense que... En termes d'audimat, ce serait extraordinaire, même à 7h30. La pauvre travaille, et quant à l'ami Pierre-Emmanuel, eh bien, il travaille, lui aussi, et malheureusement loin de Paris, puisqu'il est à Paray-le-Monial. J'espère que de là-bas, eh bien, il aura une intention pour nous. Donc ce soir, nous avons en fait trois invités qui vont se succéder à ce micro. Nous avons d'abord un docteur, le docteur Thierry Jordan, qui est médecin, qui est le président du Centre des études historiques du Mans. Nous avons vu Marie-Adeline, dont ce n'est pas la première fois qu'il vient à cette radio, c'est même la troisième, je crois, puisque à chacun de ses livres, on l'invite, et il vient de publier un essai philosophique qui s'appelle Le Carré des philosophes. Et puis nous avons aussi le plaisir de recevoir à ce micro Antoine Vincent, dont la maman est une aficionado de cette station, et qui est un artiste peintre et qui vient nous parler d'une exposition d'œuvres nouvelles qui va s'ouvrir à la fin de cette semaine.
Qui va faire une chose qui n'a jamais été faite, c'est un tableau en direct à la radio.
Un tableau en direct à la radio, oui, tout à fait, et on donnera tous les commentaires, bien sûr, à nos amis auditeurs. Alors voilà, ces trois personnes, bien sûr, sont très différentes, puisque l'un est médecin, docteur en médecine, l'autre est docteur en esthétique, c'est peut-être déjà un point commun, mais de doctorat en tout cas, et puis l'autre est artiste peintre, ils ont au moins le point commun d'être aussi, d'une certaine manière, des fous du roi. Je pense pas me tromper beaucoup en le disant. Et puis Serge de Bekech, bien sûr, est un super fou du roi. On entend que les grelots, d'ailleurs. Très bien. Et pour nous mettre un petit peu, je dirais, en jambes musicales pour cette soirée qui se terminera vers 9h05, c'est dans un peu plus d'une heure. Dans un tout petit peu plus d'une heure.
Oui, j'ai compris.
Alors nous allons écouter ce soir un disque dont on a déjà eu l'occasion d'entendre quelques extraits ici. C'est un disque très très beau, fait par des Anglais, mais des Français l'ont fait aussi, il y a très longtemps. Ça s'appelle en anglais The Field of Cloth of Gold. Je m'excuse de mon accent qui n'est pas aussi bon que celui de Serge Bekech. En fait, c'est le camp du drap d'or. Donc ce sont des musiques qui ont été composées à l'occasion de la rencontre entre Henri VIII et François Ier en 1520. Alors il y a les auteurs anglais, les auteurs français, on avait fait de la musique parce qu'il fallait agrémenter un petit peu cette rencontre au sommet, déjà une diplomatie au sommet à l'époque, il fallait l'agrémenter de musique. Alors on va écouter comme ça des extraits, et si les gens sont intéressés, bien ils peuvent téléphoner ici à nos amis du Standard qui se feront une joie de leur donner les références de ce disque que l'on trouve dans toutes les bonnes maisons. Alors pour commencer, nous allons écouter un premier extrait, là c'est un anonyme français, et ça, alors, c'est L'amour de Mouet, il faut prononcer comme on prononce à l'époque, voilà, c'est L'amour de Mouet.
Vous dormez devant Radio Courtoisie.
Alors vous écoutez donc Radio Courtoisie, que vous pouvez bien sûr nous joindre toute cette soirée au 46 51 00 85. Et alors donc j'ai le plaisir de recevoir en première partie de cette chronique le docteur Thierry Jordan. Alors docteur Thierry Jordan est président d'un centre d'études historiques qui s'est constitué au Mans, voilà, déjà 2 ans. Et l'année dernière, vous aviez organisé une première session d'été, et là, cette année, bien, vous récidivez dans cette session d'été. Alors, pourquoi avoir organisé ce centre d'études historiques, et qu'est-ce qu'on y fait exactement ?
Oui, notre centre d'études historiques a diffusé des circulaires à travers la France à partir des listes d'adresses que l'on a bien voulu nous donner. Et on peut lire sous l'intitulé de notre cercle, de notre centre d'études, que, bon, si j'en suis le président, la vice-présidente est mademoiselle Dominique Noël, la secrétaire est mon épouse Brigitte Jordan.
C'est très bien de travailler en famille, moi je suis pour.
Le trésorier est Éric Duréau. Alors, en octobre 93, je m'étais ouvert auprès de Dominique Noël de la possibilité que j'avais au Mans d'organiser un colloque sur une grande échelle, et de la possibilité et du désir au fond que j'avais de rendre service si cela pouvait rendre service. Cette idée l'a séduit et elle en a parlé autour d'elle à différentes personnes, par exemple à Guy Auger, qui à cette époque-là vivait les dernières semaines de sa vie, les derniers mois. Nous ne le savions pas, lui peut-être non plus. Enfin, il était partie prenante dans cette opération. Et finalement, nous n'avons pas pu l'avoir. Dominique Noël s'en est ouverte aussi auprès du prince Rémy de Bourbon-Parme, qui a trouvé que l'idée était intéressante. Et nous avons reçu le patronage de madame, la grand-mère de notre prince Louis, le patronage du duc d'Aquitaine, l'oncle de notre prince Louis, et puis le patronage et la présence effective du prince Rémy de Bourbon-Parme.
Donc, placé sous l'égide des Bourbons,
voilà, hein,
voilà, si n'ayant pas peur des mots.
Si bien que notre première session, l'été dernier, a réussi, pour une première fois, à déplacer en plein été, au mois d'août, dans la ville du Mans, une 60aine de personnes, tout compris. Si l'on compte les conférenciers, qui étaient au nombre de 10, 60 personnes ont fait le déplacement au Mans. Et la satisfaction qu'ils ont exprimée sur le coup et a posteriori par des courriers fait que nous avons décidé de recommencer dans les mêmes conditions, au même endroit, avec la même formule, et pour l'instant je peux dire déjà avec les mêmes participants, puisque la plupart des participants de l'an dernier ont déjà cotisé une deuxième fois pour être présents en août prochain.
Donc vous êtes relapse, en quelque sorte. Vous êtes relapse. Alors quand est-ce que ça se passe d'ailleurs cette année? À quelle date ça se passe exactement?
Cette année, ça va se passer au mois d'août pendant 4 jours pleins qui sont répartis sur 5 journées. Il s'agit du 16 août, du 17 août, du 18 août, du 19 août et de la matinée du 20 août 95. Pendant que j'y pense, j'incite nos auditeurs à prendre un stylo s'ils veulent noter l'adresse.
Ah, mais ça, il ne faut pas les inciter parce qu'ils ont toujours un stylo avec eux quand ils écoutent Radio Courtoisie. C'est une nécessité.
Donc, lorsque l'on veut nous joindre, il faut écrire au Centre d'études historiques, en abrégé CEH, 72 rue de Flore, au Mans. Le code postal du Mans, c'est 72.
Donc, 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans. Ça, c'est, voilà. On mémorise quand même très facilement.
Le téléphone, je l'indique pendant que j'y suis, le téléphone, c'est 43 81 37 67. Je répète, 43 81 37 67. Et la télécopie, que certains appellent un fax, c'est le 43 76 69 88.
On a le droit de dire fax parce que c'est pas de l'américain.
Oui,
c'est de l'allemand. Latin. C'est même d'origine latine. T'es facsimilé.
Voilà.
Alors, mais vous avez des gens très intéressants qui viennent. Enfin, ça va sans doute faire plaisir à Serge Lebecquetch. Encore que lui n'est pas dans la liste des intervenants. Curieusement, vous ne l'avez pas invité.
J'étais très vexé. J'ai pas été invité.
Et ça, je pense que là, ça va faire un peu tard maintenant. Hein, parce que, mais par contre, bon, alors à part...
En revanche, je suis invité à l'université d'été de Renaissance catholique.
De Renaissance catholique. Alors, je vois quand même des gens que nous avons l'habitude de recevoir. Nous avons beaucoup d'amis communs ici. Je vois notamment Bernard Lugan, qui vient quand même souvent au micro de Serge Lebecquetch.
Qui est un des collaborateurs éminents
du Libre Journal de la France courtoise, dont on pourrait peut-être dire l'adresse.
139 boulevard de Magenta.
139 boulevard de Magenta, oui, c'est toujours utile. Vous pouvez écrire, vous pouvez avoir un numéro spécimen gratuit. Vous mettez quelques timbres quand même, ça aide. Pas des timbres pour les campagnes antituberculeuses, parce que ça aide non, pas, ni aux campagnes antituberculeuses, ni à la trésorerie des journaux, mais vous pouvez mettre des timbres.
Pas des timbres de vélo
Pas des timbres de vélo non plus, voilà. Mais mettez des timbres Même peut-être fiscaux d'ailleurs, vous pouvez.
Oui.
Tu as peut-être quelques PV actuellement, non?
Non, jamais.
Non, bon, il n'y a pas de PV, c'est très bien.
Je suis extrêmement rigoureux dans
l'observation. Alors, l'ami Jean-Denis qui viendra également, enfin beaucoup de gens, l'abbé Chalut, bien sûr, donc il vient aussi souvent à ce micro et que nous affectionnons beaucoup. Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un thème général où vous avez préféré faire saupoudrer un petit peu les thèmes?
On peut dire qu'il s'agit d'un saupoudrage, oui. Évidemment, tout gravite autour de la monarchie et singulièrement de la branche aînée, de l'aîné de la famille des Bourbons, au service duquel nous nous sommes placés. Et c'est ainsi que viendront parler de ces sujets cinq professeurs d'université. Vous avez cité Bernard Lugan, il y a aussi le professeur Jean-Pierre Brancourt de l'université de Tours, le professeur Jacques de Chambon de l'université de Toulouse, le professeur Jean-Baptiste Geoffroy de l'université de Poitiers et le professeur Claude Rousseau de l'université de Paris.
Qui vient aussi fréquemment sur Radio Courtoisie, que nous aurons l'occasion d'inviter bientôt parce qu'un nouveau, un livre sort de Claude Rousseau et Claude Paulin sur les illusions républicaines, enfin, une nouvelle édition, revue et augmentée.
J'ai même oublié un autre universitaire ou futur universitaire, c'est Landry Craya qui prépare un doctorat et qui a écrit un livre remarqué sur Charles X, Le Sacre de la Dernière Chance.
C'est un très beau livre, effectivement.
Je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas été invité à prendre la parole.
En vérité, nous avons déjà, nos circulaires montrent qu'il y a 17 ou 18 orateurs et nous avons du mal à en mettre, nous craignons d'en mettre trop parce que certains de nos correspondants disent que il n'y a pas suffisamment de temps libre prévu pour les visites de châteaux ou pour les distractions qui sont annoncées par ailleurs.
Voilà, parce qu'en plus, vous avez organisé toute une série de visites sur place ou dehors de la ville du Mans.
L'an dernier, nous avions pu voir l'abbaye de Lépau, une abbaye cistercienne qui est un peu à l'écart de la ville du Mans. Nous avions programmé aussi une visite au prytanée militaire de la Flèche, où le cœur d'Henri IV est conservé, du moins une partie. Et puis, nous avons dû renoncer à la Flèche, car nous avions des contraintes horaires. Enfin, l'abbaye de Lépau était très intéressante parce que nous avions sous les yeux les dégâts qui sont organisés dans le domaine de la culture par les pouvoirs publics. Dans cette abbaye cistercienne remarquable, il y avait des sculptures modernes, outrageusement modernes, parfois pornographiques, sous forme de vitraux.
Nous allons parler dans quelques instants de la modernité en
particulier. C'était d'autant plus amusant que parmi nos orateurs de l'an dernier, Jean Denis nous a parlé du patrimoine historique et de la renaissance de la culture. Et là, nous avions sous les yeux un patrimoine historique, une abbaye cistercienne, et la décadence de la culture organisée et financée par le contribuable.
Si, avec ça qui finançait le pauvre contribuable, vous savez, à écouter ce qu'on écoute et à voir ce qu'on lit dans les journaux, mon Dieu.
Quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on est bien content de penser ce qu'on pense.
Exactement, voilà, exactement.
Alors, ce que
vous
m'avez
tiré cette expression de la bouche.
Ce que nous avons cherché à faire aussi, et nous espérons faire preuve d'originalité en le faisant, c'est qu'en dehors des universitaires, nous donnons la parole cette année à des jeunes qui sont venus l'an dernier comme simples auditeurs, simples participants.
Et qui passent de l'autre côté de la barrière.
Et qui cette fois passent de l'autre côté de la barrière et qui ont quelquefois...
J'en vois deux, moi, déjà.
Il y a Michel Sétan, qui est connu à l'heure actuelle pour ses cadets d'Ulysse.
Tout à fait,
et qui aurait dû être parmi nous ce soir.
Qui devait être parmi nous ce soir, oui. Malheureusement, il est souffrant.
Oui, et Michel Sétan va nous parler des objets du sacre. Alors qu'il a, à vue d'œil, il a 24 ans, ou 25 ans, à vue d'œil, n'est-ce pas? Alexandre Loire n'est pas très âgé non plus. Ça tourne autour de la trentaine. Il va nous parler de Versailles et de ses mythes.
Je peux dire un petit mot quand même pour le pauvre Michel Sétan qui doit nous écouter fébrile, mais qui nous écoute quand même. Bien d'abord pour lui transmettre notre salut radiophonique et puis lui l'assurer de tous les vœux que nous formons pour qu'il recouvre très rapidement la santé qui devrait être celle des jeunes de son âge. Parce que nous, les vieux, on peut être malade, mais les jeunes, c'est pas normal. C'est contre nature, non? Pense pas ça, Serge?
Mais nous, les vieux, on est malades.
Nous sommes tout le temps malades, la vieillesse, c'est une maladie. Alors, simplement pour dire que cette association qu'il préside, qui s'appelle les Cadets d'Ulysse, édite un très très sympathique petit bulletin qui s'appelle La Lettre des Cadets, dont le numéro 2 vient de paraître, et que cette association organise le 24 mars, c'est-à-dire dans deux jours pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, demain pour les auditeurs qui nous écouteront en rediffusion demain matin et dans la matinée, donc une messe mensuelle des jeunes qui sera célébré en la chapelle Sainte-Germaine, 19 avenue des Ternes, à Paris 17e, c'est le métro Ternes, à 19h. Et cette messe sera célébrée par l'aumônier de l'association qui est le cher abbé Chanu. On n'entend parler que de lui, d'ailleurs, il devrait nous donner de royalties. À chaque fois qu'on donne son nom ici, il devrait nous donner un petit billet, non ?
Bing, on entendrait oui. Bing.
Eh bien, on entendrait souvent Bing. Hein. Mm. Voilà, puis ensuite, après cette messe, l'abbé Chanu donnera une conférence, enfin la deuxième conférence de son cycle, « Être légitimiste dans l'Église catholique ». C'est compliqué, mais c'est intéressant quand même, c'est très intéressant.
Il fait ça très bien, d'ailleurs.
Lui. Voilà. Alors, il y aura un buffet également, avec une petite participation aux frais. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, je donne l'adresse des cadets du LIS, mais bien sûr, le temps qu'ils écrivent, etc., ça peut poser problème. Vous allez, les jeunes peuvent aller dès le 24 mars à 19h, écouter la Sainte Messe et ensuite écouter la Sainte Parole de l'abbé Chanu. Et la lettre des cadets, ainsi que l'association des cadets du LIS, est domiciliée au 17 de la rue Henri Monnier, avec deux N, Paris 9e, 17 rue Henri Monnier, Paris 9e.
Encore un collaborateur du Livre Journal.
C'est tout, oui, c'est peut-être pas le même. C'est pas le même prénom, je crois. Non ?
Oui, mais enfin...
Ça ressemble, hein. Ça
permet,
bon,
ça permet de parler du journal.
C'est la famille au sens, au sens large.
Est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire une annonce qui n'a rien, qui n'a rien à voir, mais j'ai fait une chose terrible tout à l'heure, c'est Victoria qui a fait ça, elle a donné un faux numéro de téléphone. Et alors, naturellement, la personne qui est au bout du faux numéro, elle trouve ça moyennement drôle. Donc, le bon numéro, c'est 43 35 56 64, c'est le numéro du restaurant La Mer Agitée.
Oui.
21 rue Campagne Première. Donc appelez uniquement 43 35 56 64 et surtout pas le numéro qu'on a donné tout à l'heure parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir nous casser la figure autrement.
Alors ça me permet de redonner d'ailleurs le numéro de téléphone du Centre d'études historiques du Mans. C'est donc, il faut faire le 16 depuis Paris. Si vous appelez depuis la province, vous êtes exonéré de cette gymnastique. C'est le 43 81 37 67. Alors, vous avez l'intention, encore une dernière question, enfin, on peut encore parler quelques minutes, mais vous avez l'intention de poursuivre, et de poursuivre dans quel sens ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, peut-être, en plus de cette session estivale ?
Oh, je crois que nous nous limiterons à des sessions estivales, ce qui nous donne déjà pas mal d'occupations. Et nous cherchons à l'ouvrir à toutes les générations, à toutes les tranches d'âge. C'est un peu comme la lecture de Tintin qui va de 7 ans à 77 ans. L'an dernier, on a pu remarquer, et cela se voit sur les photos, que les participants allaient de 2 ans jusqu'à 80 ans, mettons. J'espère avoir la présence d'un ami qui a 94 ans et qui a encore une curiosité d'esprit, qui est au fond ce qui compte le plus. J'aime bien la formule qui consiste à dire que la seule noblesse qui compte, c'est la noblesse du cœur, et la seule jeunesse qui compte, c'est la jeunesse de l'esprit. Et j'ai remarqué que parmi nos participants, il y a des sexagénaires, des septuagénaires, des octogénaires qui sont suspendus aux lèvres de nos conférenciers autant que les jeunes. Et cette cohabitation dans nos salles de cours de plusieurs générations, de jeunes de 20 ans, de personnes qui pourraient être leurs parents, de personnes qui pourraient être leurs grands-parents, cette cohabitation est très agréable, bénéfique pour les uns et les autres, et tout cela se passe dans une bonne humeur de collège, car j'ai oublié de le dire, mais tout le monde est logé sur place, et je précise, certains de nos correspondants n'ont pas bien interprété nos circulaires. En lisant les prix de participation qui sont demandés, certaines personnes s'imaginent qu'il faut aller se loger à l'hôtel de surcroît. Non. L'hébergement est compris.
Oui, c'est très, très confortable compris, en plus.
Voilà. Donc cela ressemble à un Novotel ou à un pensionnat, pas un pensionnat en folie, mais pour vous donner une illustration de ce que j'ai fait faire à mes jeunes participants, non seulement ils nous ont déménagé les amphithéâtres pour transporter la sonorisation d'une pièce à l'autre, car pour la projection d'un film de Gonzague Zeno, l'obscurité ne venait pas assez vite, la nuit tardait à tomber, alors comme les rideaux fermaient mal dans une salle, il a fallu déménager tous les projecteurs, les matériels de sonorisation. Après la séance, voilà que nos jeunes participants ont dû transporter des lits d'une chambre à l'autre, parce que certains de nos stagiaires qui logeaient à l'extérieur n'ont pas pu sortir. Le portail du centre qui est fermé la nuit était barricadé. Et ces personnes, donc, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était de les garder alors qu'ils n'avaient pas prévu de rester. Ils se sont trouvés là sans pyjama, sans brosse à dents. avec l'obligation de coucher sur place, mais le couple en question, un couple de retraités, n'a pas voulu être séparé dans deux chambres différentes. Alors on a manutentionné les lits sur le coup de minuit. Voilà le genre d'activité qui s'est passé. Mais tout ça dans une franche rigolade, y compris le couple de retraités qui était victime de cette enfermement.
C'est castration.
Donc tout le monde s'est entraidé. Et je crois que tout le monde, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, tout le monde a été ravi de ce mélange de générations.
Il faut dire aux auditeurs qui souhaiteraient assister, moi je les y invite personnellement, à cette session du Centre d'études historiques, de ne pas oublier de se munir de bonne humeur et de brosse à dents. C'est ça, n'est-ce pas?
Je peux poser une question?
Mais oui, bien sûr.
Est-ce que l'auditorat est constitué exclusivement de convaincus, ou est-ce que vous avez des gens qui viennent par curiosité intellectuelle et qui...
La majorité, naturellement, la quasi-totalité d'entrée étaient des convaincus, mais nous avons eu des personnes qui ont pris connaissance de ce que nous faisions, de nos projets, en lisant par exemple la revue de Michel de Rostolan,
Renaissance,
le lien des familles françaises, Renaissance, etc., ou d'autres journaux. Certaines personnes sont venues un peu par curiosité pour meubler cette semaine du mois d'août. Et elles ont suivi avec intérêt, posé des questions pertinentes, et j'espère qu'elles sont reparties avec un bagage intéressant. Un bagage intellectuel, mais aussi un exemple, car je crois beaucoup à la valeur de l'exemple, si l'on veut faire progresser nos idées.
Alors il y a une question qui me trotte, parce qu'à vous regarder comme ça, nous n'avons pas la télévision, mais les auditeurs entendent le ton extrêmement calme de votre voix. Vous n'êtes pas l'agité du bocal, comme disait l'autre, n'est-ce pas? Vous êtes un homme très sérieux, très pondéré. Alors, mais pourquoi est-ce que vous êtes royaliste? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Vous n'êtes pas un peu décalé par rapport à ça?
Alors, je ne sais pas comment vous répondre en peu de temps. Il faudrait avoir beaucoup de temps devant soi pour répondre à la question.
Vous avez encore 2 minutes et demie, vous pouvez y aller.
Bon, il se trouve... certaines personnes deviennent royalistes à l'âge de 30 ans, de 40 ans, etc. Bon, mon père l'était avant moi à sa façon. C'est-à-dire qu'il a rédigé en 1953... Un bouquin dont le titre était « Généalogie et héraldique des Capétiens » en 1953. Ensuite, j'ai reçu de lui des ouvrages d'Hervé Pinoteau sur le même sujet, « L'héraldique des Capétiens » dans les cahiers nobles, édités en 54 et 55.
Ça ne nous rajeunit pas, ni le cher Pinoteau que nous saluons ce soir, s'il est à l'écoute.
Oui, j'espère, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la même époque, mon père... imprimer ce bouquin-là au Maroc, où il s'occupait d'une petite imprimerie qui avait 3 ouvriers. Il l'a imprimé et, à la même époque, Hervé Pinoteau publiait dans les cahiers nobles. Mais ils ne se sont jamais connus, jamais rencontrés, je le regrette. Bien. Alors, j'entendais mon père parler de cela, mais il a commis une légère une divergence avec moi-même, c'est qu'il désignait le comte de Paris comme l'héritier naturel de la maison de Bourbon.
Quelle idée.
Alors par piété,
a-t-on idée,
par piété filiale, je n'ai rien rectifié sur l'ouvrage que j'ai conservé, mais à force de lire, de me documenter, de participer à des colloques, je considère que l'aîné de la famille vaut mieux que le cadet que l'aîné d'une branche cadette. Bien. Je crois que si mon père est mort il y a 11 ans ou 12 ans, s'il avait vécu davantage, il aurait basculé, Dieu aidant et son fils aidant, il aurait basculé vers le prince Louis.
Alors bon. Vous êtes tous royalistes dans la famille. Alors votre épouse, que je vois que votre épouse donc est votre secrétaire général.
Oui.
Travaillez en famille, moi j'aime bien les familles. Et alors vous avez des enfants aussi, tout le monde est royaliste alors?
Oui, l'été dernier, il y avait une bande de 6 jeunes enfants, l'aîné avait 11 ans, le suivant 10 ans, ensuite 9 ans, 5 ans, etc., qui ont enrichi les photos de leur jeunesse, et c'était les plus jeunes participants. Ils ont écouté une conférence, celle de Jean-Denis, ce qu'il en est resté, parce qu'ils en reparlent, ils sont tout fiers d'avoir approché le prince Rémy, et maintenant leur chambre d'enfant est décorée par les portraits de La Roche-Jacquelin, de Charette, de Lescure, mais ils le font spontanément, personne ne leur force la main. Alors je crois qu'il faut que cette flamme soit transmise, et si elle dure encore aujourd'hui, c'est bien que les gens qui nous ont précédés l'ont transmise. Et il faut transmettre ce que l'on reçoit, c'est la définition de la tradition, je transmets ce que j'ai reçu. Donc, les projets à long terme, c'est de continuer avec l'aide de Dieu. Et nous, alors, je suis comme tous les gens de mon âge, j'ai 58 ans, je le dis pour nos auditeurs. Je n'ai évidemment aucune garantie de voir mes vœux se réaliser de mon vivant, mais j'espère que mes enfants et mes petits-enfants verront se réaliser ce que nous souhaitons tous ici.
Ben, je trouve que c'est une belle déclaration d'espérance, au sens de cette grande vertu d'espérance, qui est une vertu bien sûr chrétienne, à la fois surnaturelle et aussi naturelle. Et c'est aussi la devise des Bourbons, en tout cas de la maison de Bourbon, avant qu'elle advienne au trône de France. Quand même, après, on a changé de devise, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Thierry Jordan. Je rappelle donc le centre d'études historiques du Mans, 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans. Le téléphone est le 43 81 37 67. La télécopie ou le fax est le 43 76 69 88. Vous pouvez écrire, vous pouvez téléphoner, demander qu'on vous envoie le programme et toutes les conditions pour assister à ces 4-5 journées qui promettent d'être tout à fait intéressantes, aussi intéressantes dans tous les cas que celles que vous avez eu la bonne idée d'organiser l'an passé.
Merci Daniel.
Merci infiniment et puis bonne continuation. Maintenant pour... passer à un autre sujet, on va refaire une petite respiration musicale et nous allons encore écouter donc cet extrait de ce disque franco-anglais, si je puis dire. Il s'agit là d'un morceau français. Il y a beaucoup de morceaux français d'ailleurs, en tant que faire, je choisis des morceaux français. C'est de Claude Gervaise, c'est une pavane et gaillarde d'Angleterre. Voilà, je reprends le micro. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie au 46 51 00 85. Il y a eu un petit problème musical. C'était pas vraiment ce que je souhaitais qu'on fasse, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on ait eu un tout petit peu de musique pour parler. J'en profite d'ailleurs de cette interruption musicale pour signaler une nouvelle rencontre culturelle de Paul Bilaire. Le samedi 25 mars, c'est-à-dire dans quelques jours, il donne une conférence sur Molière, enfant de Paris protégé de Louis XIV. Le rendez-vous est donc le samedi 25 mars à 15h45, café Le Concorde, salle du premier étage. Le café Le Concorde se trouve 239 boulevard Saint-Germain. Le métro est Assemblée Nationale. Voilà une nouvelle conférence et rencontre culturelle de Paul Bilaire que je remercie d'ailleurs à titre personnel et aussi que son épouse de m'avoir envoyé une petite prescription de remède pour le rhume que j'avais il y a 15 jours. Merci, comme quoi les auditeurs sont des gens tout à fait charmants, ils vous envoient des recettes et des prescriptions médicales. Yves-Marie Adeline, bonsoir. Donc c'est pas la première fois que vous venez dans cette station, puisqu'on vous a reçu, je crois, trois fois déjà ?
Deux fois.
Pour
l'Aube Royale et la musique et le monde.
Ah, donc c'est la troisième fois qu'on vous reçoit ce soir.
L'Aube Royale, c'est Serge de Bekech qui vous avait reçu.
Et moi, je vous avais reçu après pour
La musique et le monde.
Voilà. Ouais. Alors, c'est quand même très curieux parce que l'Aube Royale, alors je vous présente un petit peu, vous êtes encore un homme jeune par rapport à moi. Donc, vous êtes né en 1960.
Le encore vraiment trop.
Hein. Oui, non, encore jeune. Mais quoique papa de cinq enfants, c'est ça bientôt, le compte est bon
bientôt, bientôt,
c'est
bientôt,
ça ouais. Non, quatre, hein, c'est ça.
Quatre et bientôt cinq.
Bon, donc il se trouve que je suis le parrain du quatrième, enfin ça c'est pour ça. Ah mais moi je travaille en famille aussi, il n'y a pas de raison.
C'est intéressant.
C'est tout à fait intéressant. Alors, c'est très curieux avec vous, parce que vous êtes docteur en, en esthétique. Et alors, vous nous assénez des livres qui sont tous différents les uns des autres. L'Aube Royale était un livre de, je dirais, d'essai de philosophie politique. Mm-hmm. La musique et le monde était un ouvrage de théorie musicale, réflexion d'esthétique musicale. Mm-hmm. Et là, vous nous régalez d'un ouvrage qui s'appelle Le Carré des philosophes. J'avais pas d'ailleurs très bien compris au départ, je crois que c'était La Carré des philosophes, une espèce de chose, c'est comme... Non, la carré, vous savez, là où on dort. C'est pas ça du tout.
Hein. Non, c'est bien
le carré. Non, parce que j'ai pensé que vous faisiez allusion au sophiste, au sophite. Enfin, passons. Ce que je dis n'est pas très intéressant. Mais le carré
pour
des philosophes.
Donc moi, il est lucide.
Moi, je suis lucide sur moi. Le carré des philosophes, donc c'est un essai de
philosophie générale.
De philosophie générale.
Ouais.
Mais parlez-moi.
Il faut que j'en dise plus.
Oui, il va falloir que vous en disiez davantage. Parce que le sous-titre, c'est Réponse à la crise de la modernité. Alors, je voudrais d'abord que vous nous définissiez la modernité. Parce que tout à l'heure, quand j'en ai parlé, vous aviez froncer le sourcil, ensuite que vous nous disiez qu'est-ce que c'est que la crise de la modernité, et enfin, quelles sont les réponses que vous apportez à cette crise de la modernité.
D'abord, donc, je vais répondre à votre première question, comment on arrive de l'esthétique à la philosophie générale. C'est surtout comment on arrive de l'esthétique à la philosophie politique, puisque la musique et le monde, ça n'est jamais que la partie littéraire de la thèse que j'avais soutenue. Et donc que Teki a publié. Et cette thèse consistait à dire à mes pairs, puisque je soutenais une thèse en Sorbonne, qu'on ne peut pas décider par soi-même de ce qui est beau et de ce qui est laid. Ça, c'est typiquement moderne, c'est-à-dire une sorte d'exaltation de ma manière de voir les choses. Et la manière en latin, ça se dit modus. Et le modernisme, c'est cela. C'est pas les frigidaires, évidemment. Mais qu'on est obligé de considérer que la musique, comme n'importe quel art, on a un peintre avec nous, ça marche tout aussi bien pour lui, enfin pour sa discipline, la musique est le résultat, enfin procède beaucoup plus finalement de l'engendrer que d'une faculté de genèse. C'est-à-dire que c'est en même temps c'est un produit de la nature, tout en étant bien évidemment c'est une rencontre, c'est le produit d'une rencontre entre la nature et nous-mêmes qui sommes objets de nature, sauf qu'il existe dans l'homme, ou du moins il est dans l'homme, parce que je ne veux pas me tromper de terme étant donné le carré des philosophes, quelque chose de très étrange, qu'en tant que philosophe, là j'appelle une nébuleuse, quelque chose de très étrange qui est créatif, et puisqu'on n'a jamais vu, évidemment, on n'a jamais entendu se promener dans la nature une flûte de Bach. Donc, cette espèce de légitimité de celui qui crée de la musique, à savoir, est-ce que ce que j'ai produit, c'est beau parce que je me porte moi-même garant de ce que je dis? Ça, c'est typiquement moderne. J'ai beaucoup donc travaillé là-dessus. Et c'est comme ça qu'évidemment je me suis intéressé ensuite à la philosophie politique, parce que la légitimité du pouvoir, c'est la même chose. De quelle manière est-ce que je peux me porter garant de cette légitimité du pouvoir? Alors, la modernité là-dedans, c'est quoi? Ben, c'est précisément à une époque où commence à s'essouffler le sentiment religieux, avec ce qu'on appelle le début des temps modernes, donc les protestants, tous ces gens-là.
Ça débute à la Renaissance.
Grosso modo, à la Renaissance. La modernité va être une aventure absolument exaltante, fascinante, mais qui consiste à... Parce que bien évidemment, on ne peut pas non plus faire, passer sous silence que je suis un individu qui m'exprime. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut ne pas être subjectif, c'est absurde. Simplement, l'exaspération de ce modus, c'est-à-dire de cette manière d'appréhender le monde, amène à considérer, oh là, l'exaspération de cette
petit Larsène,
de ce modus amène à considérer que les choses je juge les choses selon ma propre façon. C'est-à-dire, je pense que je suis d'abord capable d'arriver à la vérité, et donc ça va avoir des conséquences extrêmement graves au point de vue moral, par exemple, et bien sûr au point de vue politique.
Vous pouvez donner des exemples, alors, justement, sur les implications.
Moralement, le carré des philosophes, qu'est-ce que c'est? Ça me permet de répondre à votre deuxième question. C'est de dire que la philosophie, c'est une science très particulière et qui est qu'il ne faut pas mélanger avec les autres, et notamment avec la métaphysique, et encore moins évidemment avec la théologie. Donc ce livre essaye de dire que la philosophie est une science respectable, mais qui agit à l'intérieur d'un domaine très particulier, qui lui est propre, et c'est une très belle science. Mais
elle a des limites. Elle est incapable, comme voudraient le croire les modernes. C'est les modernes ont voulu remplacer Dieu par eux-mêmes. Donc, je dis, la philosophie est incapable de produire une morale, par exemple. Comme elle est incapable de produire par elle-même un pouvoir légitime. C'était tout l'objet de l'aube royale, bien entendu, que vous connaissez aussi bien que moi.
Un peu.
C'était de dire ça. C'est-à-dire, le plus sage des philosophes est finalement celui qui se rend compte qu'il n'est pas, lui, le garant d'une morale supérieure qui régenterait tous ses semblables et lui-même. Le plus sage des philosophes, c'est celui qui se rend compte que ce type de débat, une morale par exemple, ou un pouvoir légitime, échappe à sa propre raison, et qu'il faut, pour que tout cela soit légitime, que ça soit au-dessus de lui-même, donc quelque chose de transcendé. Alors le pouvoir, le sacre de race, etc., tout ça, ça procède de ça. Alors la morale, enfin la philosophie telle que j'essaye de la définir, c'est une philosophie qui n'est pas outrancière, qui n'est pas orgueilleuse, qui ne succombe pas à ce péché d'orgueil des modernes, mais évidemment, si je me fais taper sur ma gauche par les modernes, je vais me faire taper sur ma droite par ce que je dirais les classiques et non pas les traditionnels. Les classiques qui pensent que philosophie, métaphysique, tout ça, c'est la même chose. Eh bien, je dis non, je ne veux pas nuire à la métaphysique. Elle, dans le domaine de la logique, elle a sa place, bien évidemment, une place éminente, mais la métaphysique avance des sortes de réponses là où la philosophie ne peut émettre que des hypothèses. Donc là, je sais bien que je vais me heurter à toute une école classique représentée par un certain nombre de nos clercs aujourd'hui. Ça, j'en ai bien conscience. Les métaphysiciens, quoi. Bon, mais je ne suis pas agressif à l'égard de la métaphysique. Je pense que la philosophie doit être considérée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une science limitée à l'intérieur de ce carré. Alors comme tout le discours du carré des philosophes tourne autour de quatre propositions, science, existence, présence et volonté, bon, j'ai considéré que ça faisait un carré.
Un voilà, beau carré. Ça, oui. Mais alors, bon, je le dis tout de suite avant de l'oublier, parce que si je l'oublie, ce serait quand même très dommage, que le livre vient d'être publié chez Guy Trédaniel, éditeur à Paris, qu'on le trouve bien sûr en toute librairie. En quoi estimez-vous qu'il y a aujourd'hui une crise de la modernité?
Alors ça, c'est très intéressant. Bonne question. La modernité a commencé il y a 500 ans, grosso modo, donc au 15e siècle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment dans les domaines de la connaissance, la modernité est en crise. Aujourd'hui, tous ces modèles, toutes ces certitudes de représentation du monde, que ce soit en astrophysique, bien évidemment dans la mathématique, dans la géométrie, on se rend compte avec le théorème de Gödel. Tiens, voilà.
Parce que plutôt
que de passer en revue les géométries non euclidiennes qui montraient bien qu'en définitive il y avait plusieurs modèles de représentation des choses et que bon, il n'y avait pas simplement des modèles figés. Qu'est-ce qu'il dit Gödel? Et ça a été très peu compris à l'époque, donc on peut en faire le reproche à personne, c'est une énorme chose, hein, au tournant entre les années 20 et 30, donc à ce tournant-là, Gödel, en définitive, dit que un système mathématique ne contient pas sa propre justification. Donc c'est évidemment une énorme claque pour les modernes, pour tous ceux qui pensaient que la vérité, avec un grand V, était accessible à la raison. En réalité, non. La philosophie, la science, bien évidemment, et la philosophie est une sorte de travail sur la science, ça n'est qu'une anthropologie. En quoi la philosophie est une sagesse? Ça n'est pas une sagesse au sens où la philosophie créerait une morale, encore une fois. C'est là où je m'oppose fortement aux modernes, qui ont évidemment fait cela pour remplacer la religion. On est bien d'accord. Qu'elle est révélée, la religion. Elle n'est pas, nous ne sommes pas, nous. C'est pour ça que les protestants, par exemple, c'est une idéologie à prétention religieuse, si vous voulez. Mais en réalité, c'est une idéologie. Bon. Mais la philosophie elle crée des modèles de représentation, elle ne crée pas évidemment des morales. Alors, lorsque Gödel vient dire que un mathématique ne contient pas sa propre justification, ça veut vraiment dire que la vérité est en réalité inconnaissable. Et c'est pour cela que la sagesse, la philosophie est amie de la sagesse parce qu'elle dit, c'est une anthropologie qui dit où suis-je, quelle est la place de l'homme dans le monde, pourquoi le monde est-il incompréhensible, mais parce qu'il est seul et qu'on ne peut comprendre qu'un rapport d'état. Donc il ne s'agit pas de alors la métaphysique va nous parler de l'être, de choses comme ça, je n'ai rien contre. Je dis que là où la métaphysique parle de l'être, la philosophie, enfin moi en tout cas, je parle de nébuleuse, de choses comme ça. Enfin ça, c'est toute la deuxième proposition qui est, alors, qui est existence.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu.
Oui.
Non, parce que c'est très intéressant.
C'est difficile d'expliquer ça en peu de temps.
c'est un livre d'une richesse extraordinaire, parce que si je peux dire un mot.
Bien sûr, vous êtes chez vous, Serge.
oui, je suis invité là. L'utilisation, enfin, la prise comme modèle de la musique et du rapport du compositeur à la musique, c'est prodigieux de richesse dans l'expression d'une idée. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé que la musique existait. Était un en soi, comment dire. Ça existait a priori de tout temps, de toute éternité, la musique est. Et il y a des gens qui sont en quelque sorte doués, pour des raisons qu'on ne saura probablement jamais, d'une capacité d'antenne. Et ils entendent certaines musiques qui existent et ils les transcrivent. Je crois que c'est l'explication de Mozart écrivant des quatuors pour violon dans une auberge de Modène à 14 ans. C'est impossible techniquement si on n'a pas cette idée-là. Et ce que je comprends de ce que dit Monsieur Adeline, j'espère que je comprends pas mal, c'est que il en va de même, par exemple, de la légitimité du pouvoir. La légitimité, c'est une chose qui est transcendante, qui existe dans l'absolu. Et il y a des gens qui sont faits pour comprendre et exercer ce pouvoir. En ce sens, ils ont les mêmes antennes, mais réglées sur une longueur d'onde différente que les compositeurs de musique. Et on pourrait dire probablement la même chose de la peinture. La peinture existe, l'esthétique est un absolu. Il y a des gens qui la comprennent et qui sont capables de transmettre au monde cette réalité qui est éternelle. Et puis il y a des gens qui croient que c'est pas comme ça que ça se passe, que ça vient pas d'en haut mais que ça vient d'en bas. Et qui eux-mêmes croient qu'ils sont capables de savoir ce qu'est de la musique, donc d'inventer de la musique, d'inventer du pouvoir, c'est la démocratie, ou d'inventer de la peinture, et c'est la peinture moderne. Moi, c'est comme ça que je comprends votre démarche. Pour simplifier, je crois qu'il y a vraiment deux attitudes humaines en face de ça. Il y a une attitude qui consiste à accepter la transcendance comme l'origine de tout, et qui consiste à croire qu'il y a des hommes qui sont capables de contacts intelligents sur des points précis avec cette transcendance. Et puis il y a des gens qui en sont incapables, il y a des hommes qui en sont incapables et qui croient que tout vient d'eux. Que ce soit la musique, la peinture, la littérature. Et c'est ça la modernité, en fait. Et curieusement, historiquement, il y a une coïncidence entre la découverte par lui-même de l'individu en tant que microcosme, qui date du XIVe siècle à peu près, avec l'arrivée de la modernité.
Il précisément à l'époque à laquelle vous faites allusion, l'individu commence à se décomposer. Enfin, comment dirais-je, il s'analyse.
C'est ça. C'est ce qui fait dire le moi est haïssable.
Voilà, c'est ça. Il se met en tome. Alors qu'en réalité, ça c'est tout le problème de la recherche. Lorsque j'enseignais à l'université ou lorsque je faisais de la recherche, bon, c'était toute une ambiguïté. C'est que dès lors que vous voulez saisir quelque chose, tout le monde sait bien, pour tous ceux qui ont fait des sciences parmi nos auditeurs, savent bien que l'observateur modifie la chose observée. Et donc, dès lors que je veux commencer par arrêter quelque chose pour le regarder, je dois commettre un crime. Et précisément, je dois disséquer un cadavre. Autrement dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors là, c'est bon, on va appeler ça la vie, etc. Mais sinon, c'est ce problème de. Moi, je pense à une rencontre, si vous voulez, et entre. Nous sommes des objets de nature, mais en même temps, c'est vrai qu'il existe quelque chose en nous. Alors, je refuse à la philosophie la possibilité de le nommer. C'est ça un peu qui va me faire des ennemis, j'imagine, dans toute une école pseudo-thomiste. Je dis bien pseudo. Parce que...
Est-ce que vous ne croyez pas que un des aboutissements de cette perversion, c'est l'existentialisme, qui consiste à dire que l'existence possède l'essence, ce qui revient à nier l'essence?
Encore qu'il y a une intuition qui m'a toujours beaucoup plu dans La Nausée, et qui est lorsque le héros est dans un parc, et qu'il est assis sur un banc et qu'il voit une souche qui passe entre ses pieds, enfin une souche d'arbre, et il dit l'existence finalement c'est peut-être cette chose là qui ne passe pas, et je le note d'ailleurs dans le carré des philosophes. Je crois que c'est une intuition extraordinaire. Bon, ça n'a pas été exploité dans un sens que moi j'aurais souhaité, bien évidemment. Mais je crois que ma deuxième proposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence, précisément, c'est un peu notre cage, c'est une manière d'être, donc il existe sans doute, enfin, il y a de l'être, Peut-être. Ça, c'est en tout cas, c'est pas la philosophie qui peut le dire. Et l'existence, c'est de l'être qui existe, quoi. C'est ce qui nous fait bien comprendre que le monde est fini, que le monde est limité et que le monde s'arrêtera un jour, par exemple. Hein. Donc la philosophie, elle ne s'exerce que sur ces existences-là, que Heidegger appelait étant. Bon, mais on va parler d'existence. Moi, je préfère. La philosophie s'exerce là-dessus. La métaphysique, il faut bien dire que elle aussi, elle s'exerce là-dessus, mais elle explore beaucoup plus que la philosophie les voies de la logique, puisque elle arrive à ces histoires de l'être avec l'âme, etc. La philosophie ne le fait pas, selon mon point de vue. Si vous voulez, ce que j'essaye de faire, à une époque où je suis convaincu que la modernité est en crise pour des raisons que je vous ai citées, des raisons épistémologiques, mais en même temps d'autres raisons, c'est-à-dire que c'est l'essoufflement complet de nos arts. L'art moderne est arrivé à l'essoufflement complet. C'est-à-dire ce moment où l'artiste devient complètement renfermé sur lui-même, puisque son œuvre d'art et lui, c'est la même chose. Alors ça, c'est évidemment ce qui pouvait lui arriver de pire. N'importe quel écrivain est égocentrique, par exemple. Mais là où il commet une erreur, une faute, c'est lorsque son écriture procède de son égocentrisme. Hein.
C'est la justification de toutes les cochonneries.
Voilà, absolument. Alors oui, quand vous avez parlé de... Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais ce que je propose dans le Carré des philosophes, c'est une réconciliation entre une pensée qui précédait les modernes et les modernes eux-mêmes. Car je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Les modernes ont posé des questions essentielles sur la capacité que j'avais. Quand on disait avant les modernes, c'est une pensée objective, on disait bah oui, elle se rapporte à l'objet. Ça, c'est encore ce qu'on vous enseigne. Je suis désolé de le dire, mais après tout, il faut bien lancer le débat dans des endroits comme l'IPC, l'Institut Saint-Pédis, etc. Hein. Ça se rapporte à l'objet, donc c'est objectif. Oui, mais c'est pas vrai pour autant. Bien sûr, c'est objectif puisque ça se rapporte à l'objet. Mais la vérité, elle, comment sont les choses telles que Dieu les voit? Moi, je ne peux pas le savoir. Je suis limité d'une épaule à l'autre. Et ça, les modernes l'ont bien dit que la réponse qu'ils aient faite soit allée dans le mauvais sens, vers une exaspération de leur subjectivité, c'est une chose. Mais des gens comme Kant, on peut pas tirer un trait là-dessus. Ce que je cherche à faire dans le Carré des philosophes, c'est réconcilier. Dans cette crise de la modernité contemporaine, c'est de réconcilier prendre des deux grands courants, si vous voulez, d'avant et d'après, prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les deux et d'essayer d'ouvrir une autre porte, quoi, vers des lendemains qui chantent.
C'est ça, en quelque sorte, vos réponses à la crise de la modernité?
C'est de dire que les questions que se sont posées les modernes ne sont pas de mauvaises questions. Les réponses que la modernité en a faites, c'est autre chose. Mais c'est de... Alors, ça n'est pas que ça, c'est pas de dire, bah, écoutez, tendons-nous la main et repartons du bon pied. Il faut aussi quand même argumenter. Enfin, donc, il y a ces quatre propositions, science, existence, présence et volonté. Il y a des choses que je laisse tomber de la métaphysique. Volonté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pense que... c'est vrai qu'il existe des choses mystérieuses dans l'homme. Vous avez parlé de Mozart, créateur. Du moins, créateur, entre guillemets, on est bien d'accord. Hein. Mais je crois qu'il existe donc des instantanés, car comment nous qui sommes objets de nature pourrions-nous produire sous espèce d'instantané des choses qui ne sont pas de nature? Alors c'est là où la métaphysique va parler de l'âme, de l'être, etc. Hein. Donc, mais ce que je propose dans ma quatrième proposition, qui est volonté, c'est de passer sur la conscience, parce que ça c'est une chose que qui est vraiment très métaphysicienne, que je ne comprends pas très bien, et plutôt pour parler de volonté. C'est ça, je crois que c'est une chose extrêmement intéressante à étudier chez l'homme, ça, la volonté de répondre oui ou non. C'est pour ça que le livre se termine par Saint-Pierre, quoi.
Mais parce que là on arrive forcément à la métaphysique. Dès qu'on commence à parler de volonté, on est dans le domaine de la métaphysique.
Alors si je me contente de dire voilà, il y a des choses mystérieuses. Je reste philosophe parce que moi je ne fais pas de métaphysique, et encore une fois je ne crache pas sur la métaphysique, mais je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Je dénie la possibilité de dire bah voilà, métaphysique, théologie, philosophie, tout ça c'est la même chose. Ça n'est pas vrai. mais je dénie aussi aux modernes le pouvoir de dire, mais en réalité, il n'y a que la raison et il n'y a rien d'autre. Et notamment pour produire une morale. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, je dis que celui qui a tout compris, c'est Saint-Pierre, qui lui n'est pas un intellectuel, c'est pas Saint-Jean, c'est un pauvre marin-pêcheur.
C'est pas Saint-Paul, surtout.
Mais lui, il a tout compris. Il a tout compris, c'est pas pour rien que c'est le pape. Le premier pape, c'est celui qui a aimé,
trahi,
c'est le plus humain. Enfin bon, c'est mon saint préféré un peu à cause de ça, quoi.
Ben, c'est un livre tout à fait qui m'a l'air d'être tout à fait intéressant. Je rappelle quand même ce titre qui s'appelle Le Carré des philosophes, publié chez Guy Trédaniel, sous-titré Réponse à la crise de l'humanité. Ça vaut 90 francs, c'est très peu de choses.
Tu me permets de dire que Trédaniel est vraiment un type incroyable.
Ah non, mais ils font des
éditions. C'est vraiment un éditeur
tout à fait exceptionnel.
C'est ahurissant ce qu'il édite au point de vue de la liberté de l'esprit. Il est capable de publier un livre de philosophe, ce qui n'est pas évident du tout.
Non.
Il est capable de publier un livre de chiropracteur, un livre sur l'alchimie, un livre sur Gurdjieff. Il y a une curiosité chez cet homme. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui.
C'est extrêmement rare, des gens comme ça. Il y a un problème de l'édition aujourd'hui. Bon, c'est une maladie pour se faire éditer, parce que ça coûte très cher. Donc un type comme Trédaniel a le coup de cœur pour une pensée qui est exposée dans ce livre, et il se dit, bon, je vais dépenser beaucoup d'argent pour le publier, et puis advienne que pourra. C'est beau, je veux dire, ça c'est vraiment enfin, un beau travail.
Il y a lui, et puis il y a... Comment s'appelle L'œil, les éditions de l'œil.
François-Xavier
de Guibert. C'est pas du tout la même
aussi.
Personnalité.
C'est autre chose,
mais c'est la même démarche de curiosité et de liberté dans un domaine où quand on dit je suis curieux et libre, ça veut dire qu'au bout on met 100, 150 000, 200 000 francs son argent à soi en disant j'espère qu'au moins il va y avoir.
Il faut relativiser, n'est-ce pas? Ça vaut pas si cher que ça. Ça vaut un certain prix d'éditer un livre, mais ça vaut pas si cher que ça. Ça vaut quand même beaucoup moins cher que des campagnes électorales présidentielles. Non, mais c'est une chose très importante.
Non,
je
mais
disais
quand,
tout
quand
à l'heure
voyez,
dans la presse que entre Monsieur Balladur et Monsieur Chirac, on en est à peu près à 90 millions de francs jour de budget pour le premier tour, et qu'on envisage l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, je ne sais pas, de dépenser entre 110 et 120 millions de francs pour le deuxième tour. Ce sont des sommes quand même qui sont des sommes astronomiques.
Quand on y réfléchit bien, n'est-ce pas?
On arriverait à distribuer gratuitement le carré des philosophes dans toutes les écoles.
Absolument. Absolument. Alors, il y a quand même une dernière question, Marie, avant que je passe au dernier intervenant de ce soir. Le roi dans votre système, c'est quoi exactement?
C'est pas un livre royaliste, le carré des philosophes. C'est un livre de philosophie générale. Simplement, j'ai essayé, mais j'ai balbutié parce que je suis pas bon orateur. J'ai essayé d'expliquer que j'étais arrivé. Ce livre, en définitive, il précédait les autres. Bon, sauf que c'est une méditation d'une bonne dizaine d'années. Évidemment, c'est toute une maturation intellectuelle. Donc, j'ai écrit les autres en premier, bien entendu. Le premier publié ayant été d'ailleurs Le Broyal. Ça veut dire que si vous commencez...
Pourquoi vous souriez en disant le premier publié, c'est Le Royal?
Parce que vous en êtes l'éditeur.
Ah, voilà.
Comme chacun sait. En définitive, si vous remettez en cause la modernité, si vous la détruisez page après page, si vous dites, eh bien voilà, on arrive à une crise de la modernité, et aujourd'hui, tous ceux qui pensent qu'ils pouvaient se porter eux-mêmes garants de leur propre modèle de représentation, que ce soit en matière scientifique, de la connaissance, sur la connaissance dans le carré des philosophes, je dis que c'est naître avec, c'est cum natere, ça n'existe pas, au sens absolu du terme, j'entends. On est avec le monde, donc on ne peut pas savoir ce que c'est que le monde, puisque nous sommes seuls en même temps que le monde, quoi.
J'ai l'impression que vous voulez dire que le roi, c'est ce qui est récupérable quand, au milieu du champ de ruines. Est-ce que le roi ne préexiste pas, en fin de compte, au champ de ruines de la modernité?
Non, simplement, ce que je veux dire, c'est que la modernité a renversé le roi. Évidemment, le premier acte moderne, enfin disons, la première manifestation de la modernité en politique, c'est en Italie, c'est Machiavel qui prend d'ailleurs exemple sur celui qui a été brûlé, là.
Giordano Bruno.
Comment?
Giordano Bruno.
Non.
Savonarole.
Savonarole.
Savonarole, bien sûr. Et qui disait, je me porte moi-même garant de mes propres représentations, de mes propres certitudes.
Oui, mais bien sûr, parce que Savonarole, lui, était branché. Savonarole était absolument convaincu que son pouvoir ne venait pas de lui-même ni de la
oui,
masse,
oui, oui, oui.
Mais que son pouvoir était le pouvoir d'en haut.
Voilà, simplement, non mais je cite sa phrase exprès pour dire que la démocratie c'est ça, c'est je me porte moi-même, ou nous nous portons nous-mêmes garants du bien commun, etc. Et donc elle a évidemment renversé, elle a mis du temps parce que la monarchie française était un édifice magnifique, et puis quand même ça a été baptisé à Reims, tout ça c'est difficile d'extirper ça. Donc ça a commencé par une modernité philosophique, il y a eu Descartes, il y a eu tous ces gens-là, et puis il y a une modernité artistique qui a très bien commencé, qui a très mal fini, et puis ensuite une modernité politique, et puis enfin maintenant on arrive là, au bout, quoi. Donc il n'y a pas de royalisme dans le carré des philosophes, bien entendu. Simplement, je crois que, et ça c'est un discours que je tiens depuis longtemps, je l'ai tenu dans les colonnes du Fil ou ailleurs, il faut faire un travail général de réaction contre la modernité. Si vous vous contentez de réagir politiquement à la modernité ou simplement religieusement à la modernité, vous vous ferez contourner par tout le reste. Vous vous ferez contourner dans le domaine esthétique, vous vous ferez contourner dans le domaine de la philosophie générale, etc. En tout cas, il faut faire un travail global. Il faut faire un travail cohérent. Et l'Aube royale, je ne nie pas que c'est un ouvrage intéressant, l'ayant écrit moi-même, évidemment, je ne renie pas, bien entendu. Je pense que le carré des philosophes est un ouvrage beaucoup plus important encore, bah, évidemment parce que c'est le dernier, donc j'y ai mis toute une expérience intellectuelle encore plus forte, si vous voulez. Mais c'est un ouvrage qui couvre beaucoup plus de choses. C'est un ouvrage qui couvre la philosophie aujourd'hui, qui est morte, bien évidemment, la philosophie est morte aujourd'hui, donc il faut essayer de la relever. Et je crois qu'on peut la relever de cette manière-là.
Eh ben, on peut s'en rendre compte en lisant, en découvrant, en méditant le carré des philosophes qui, Marie Adeline, vient de publier chez Guy Trédaniel, éditeur à Paris. C'est 90 francs, ce n'est pas très cher, et c'est un livre assez surprenant, je dois dire, enfin, qui m'a personnellement beaucoup surpris. Mais dans le bon sens du terme, rassurez-vous.
Je peux te le prendre si tu l'as.
Oui, oui, je te le prends. Je suis prêt. Très volontiers. On ne va pas passer de musique maintenant parce qu'il reste quand même relativement peu de temps, et je voudrais qu'on entende un tout petit peu Antoine Vincent, que j'ai le plaisir d'avoir à cette émission, même si lui-même n'est pas très habitué à parler dans un micro. Il s'exprime beaucoup mieux avec ses pinceaux et ses couleurs, effectivement, que devant un micro. Mais je crois aussi qu'il a sans doute des choses à nous dire, parce que je dirais qu'Antoine Vincent n'est pas non plus un adepte de la modernité en peinture. Pouvez-nous dire comment vous avez été formé, par qui vous avez été formé ?
J'étais autodidacte, je suis autodidacte, et j'ai rencontré Philippe Lejeune dans les années 88-89, qui m'a bien aidé depuis. Mais sinon, j'ai eu un parcours chaotique, j'ai fait de la musique, du droit, enfin, pas fait les
alors donc la musique est aussi ce qui vous rapproche, dit Marie-Adeline, mais on n'est pas fait de médecine, donc ça vous rapproche.
Moi, j'ai pas fait de médecine. Non.
Bon. Alors vous nous proposez d'aller visiter votre exposition. Moi, je vous connais, Antoine, depuis une bonne dizaine d'années certainement. Bon, et j'ai eu l'occasion donc de vous suivre d'abord dans vos premiers travaux, dans vos premières peintures, et puis ensuite j'ai vu vraiment un style s'affirmer, un style qui sans doute était un peu parfois victime de vos états intérieurs, de votre mal-être ou de votre bien-être, et tout ça s'exprimait tout à fait dans votre peinture. Mais on sent vraiment une évolution très forte. Alors vous avez une exposition, d'œuvres nouvelles et d'œuvres, je pense, aussi anciennes. Je crois que vous avez mis quelques tableaux un peu plus anciens.
Oui, ça va de 93 à maintenant.
Donc une exposition qui s'ouvre le 25 mars jusqu'au 14 avril à la galerie Philippe Frégnac, qui se trouve 50 rue Jacob, Paris 6e. Donc galerie Philippe Frégnac, 50 rue Jacob, Paris 6e, ouvert tous les jours de 14h30 à 18h.
De l'Annonciation au vendredi.
Voilà, de l'Annonciation au vendredi. Alors vous aimez bien faire des références de cette nature?
Oui, ça m'arrive, mais pas dans toute l'étoile.
Pas dans toute l'étoile. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la fois dans votre inspiration, dans les œuvres que vous présentez? Qu'est-ce que vous avez de nouveau?
Il y a notamment deux scènes religieuses, finalement, ça c'est nouveau. Et puis il y a une série de nus aussi, c'est la première fois que je fais ça. Sinon, il y a toujours les éternelles natures mortes et les scènes d'intérieur.
Moi, si je peux dire un mot, c'est que je connais la peinture d'Antoine Vincent depuis, je sais pas, plusieurs années en tout cas.
Oui, au moins 3-4 ans.
Oh, facilement, oui. Et ce qui lui arrive est stupéfiant. Là, j'ai une toile sous les yeux. Je vais dire un mot qui est complètement idiot, mais vous avez fait des progrès. c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'on est ébloui par cette peinture. Alors, on sent d'abord J'espère que je ne vais pas vous gêner en disant ça ou vous blesser, parce que souvent quand on évoque les maîtres, on blesse les disciples. Mais on sent l'école des temples, on sent Philippe Jérôme.
Philippe le Jeune.
Philippe le Jeune, pourquoi je dis Jérôme? Philippe le Jeune, on sent qu'il vous a...
Oui, il m'a bien aidé.
Oui, aidé, enfin, qu'il vous a apporté quelque chose, c'est certain. Mm. Alors en plus, ça a pris un poids, ça a pris une profondeur, cette peinture. C'est... Moi, je suis ahuri par le tableau que j'ai sous les yeux. Là, c'est d'abord d'une audace incroyable, dans tout le choix du sujet et la présentation. Mais sur le plan de la technique, c'est d'une beauté bouleversante.
Écoutez, vraiment,
merci. Ah bah non, c'est nous qui vous remercions. Non, non, c'est pas vous de nous remercier, c'est nous qui vous remercions de faire ce type de...
Et puis c'est de la vraie peinture. C'est pas de la peinture de la modernité, quoi. C'est pas... Je suis sûr qu'Antoine Vincent croit pas que ça vient de lui tout seul, quoi. Il y a forcément quelqu'un à l'intérieur qui lui tient la main quand il a le pinceau, c'est...
Vous avez un avis sur ce qu'a dit Marie-Adeline, parce que je pense que vous étiez fait pour vous rencontrer, c'est pour ça que je suis un peu content que vous soyez ce soir dans le même studio, même si vous n'avez pas eu l'occasion de dialoguer, peut-être l'aurez-vous un jour ou après cette émission, mais ce serait intéressant que vous l'ayez aussi un tout petit peu au micro. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Marie-Adeline a dit sur sur cette modernité, notamment en matière esthétique?
Écoutez, moi, je suis un plus bas de plafond que Yves Marie-Adeline, pardon.
Je crois qu'il ne faut pas dire ça.
Et vraiment. Encore moins orateur que lui. Mais je crois que dans l'ensemble, il a raison. La modernité, née au XIVe, XVe siècle, enfin,
Ça vous gêne si on vous dit que vous êtes un peintre de tradition?
Non, c'est plutôt un compliment.
C'est-à-dire pas un peintre au sens refaire toujours la même chose. Parfois, comme c'est vrai, il y a des écoles de peinture où on a l'impression que les gens refont de génération en génération exactement la même chose. Bon, mais c'est-à-dire vraiment une source d'inspiration très traditionnelle, en fin de compte, que vous exprimez avec votre talent.
Je peux me permettre d'interrompre votre invité.
Non, c'est moi que vous interrompez, mais c'est pas grave.
Oui, mais vous posez des questions. Là, c'est pour répondre à sa place. Je comprends pas ce que veut dire peintre de tradition. Vous êtes obligatoirement de tradition si vous êtes peintre ou musicien ou quoi que ce soit, puisque vous avez reçu quelque chose que vous retransmettrez. Mais évidemment que vous le retransmettrez. Il y aura une expérience intermédiaire qui sera passée entre celui qui vous l'a donné et celui à qui vous le transmettrez. Donc ça, c'est votre subjectivité. La modernité, quand on dit 14-15e, je voudrais pas qu'on dise, attention, le Quattrocento, c'est dégoûtant, ça, attention, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il y a eu une rupture qui, c'est la théorie des catastrophes de Tom. René Tom. Si vous mettez une bille sur une chaise, penchez la chaise, petit à petit, il y a un mouvement qui commence et au bout d'un moment, la bille tombe. C'est la même cause, c'est le même mouvement, mais en réalité, il s'est produit une catastrophe. Donc, il est arrivé un moment où moi, je crois que l'impressionnisme était une chose superbe. Simplement, bon, ça, l'histoire, la grande nef de la modernité a fini par s'échouer dans la subjectivité absolue, quoi.
Quand on parle de peintre de tradition, la seule différence entre un peintre de tradition et un peintre qui l'est pas, c'est que le peintre de tradition se reconnaît comme tel. Mondrian était peut-être un peintre de tradition s'il revendiquait son appartenance à une lignée de créateurs, ou moi j'appelle plutôt ça de médiums, donc de gens qui expriment une réalité transcendantale. Mais vous avez des peintres qui refusent catégoriquement ça, qui disent qu'ils sont purs créateurs, que tout vient d'eux, de leur volonté, de leur bon plaisir. Oui. Et ça, c'est pas des peintres de tradition, même s'ils font de la peinture figurative. Ils appartiennent pas à la tradition. Tradition avec un grand T.
Alors que l'œil du peintre, comme n'importe quel œil d'ailleurs, vous savez que la vision passe par le nerf optique qui est le point aveugle de la vision, donc on est en même temps frappé de cécité et d'invisibilité. Et ça, les modernes, évidemment, n'ont jamais pris ça en compte.
Je peux reprendre un petit peu Antoine Vincent pour le faire parler, parce qu'il est un peu intimidé devant un micro, mais je vous assure que franchement, ça vaut la peine d'aller voir son exposition.
Il y a aussi une autre exposition à aller voir. Je viens de l'Institut, on a décerné le prix Paul-Louis Weller pour le portrait cette année, et ça donne un peu de baume au cœur. Il y a pas mal de jeunes, il y a une cinquantaine d'auteurs exposés, 60 exactement, Je crois qu'il faut aller voir cette exposition.
Ce sont des portraits.
Dire aux auditeurs d'aller voir cette exposition.
Alors ça se trouve où cette exposition?
C'est à l'Institut, c'est 27 Quai de Conti.
27 Quai de Conti, un institut, c'est quand même sympathique qu'un peintre qui ouvre lui une exposition dans 3 jours invite les auditeurs à aller en voir une autre. Il a discerné.
Non mais j'ai aussi une toile, là-bas.
Ah bon, alors comme ça, nous aurons deux occasions d'aller voir.
Il y a d'autres élèves de Philippe Lejeune d'ailleurs qui sont là-bas.
Bon, c'est très intéressant, nous avons ici dans cette radio beaucoup de respect pour Philippe Lejeune. Vous avez deux sujets religieux, vous m'avez dit, c'est la première fois, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'inspiration jusqu'à présent.
Une annonciation que j'ai trouvée.
Oui, je ne m'en souviens plus de celle-là. Et alors, c'est quoi vos deux thèmes, là?
Là, c'est la circoncision et un calvaire.
Un calvaire. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce type de peinture, à faire un calvaire?
Je ne sais pas. C'est ça le pire, c'est que, bon, j'avais envie de faire ça, et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de plus que la nature qui parle.
Est-ce que vous aimez Goya?
J'aime Goya, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime Goya. J'aime la peinture espagnole en général. Surtout Velázquez, Zurbarán.
Vous êtes influencé par eux ou
oui,
pas?
Je suis influencé par eux et de plus en plus. Et de plus en plus. Cette lumière très assez crue avec ses ombres fortes, ça se... C'est ce que je recherche.
Et au-delà de l'aspect visible de l'œuvre, c'est un petit peu je dirais.
Il y a le christianisme aussi qui imprègne toute cette école espagnole et qui est prenant, qui est un
christianisme d'époque tragique. Parce qu'il y a la toile que j'ai sous les yeux, là, c'est une tragédie. Il y a une dimension tragique.
Le sentiment dans tragique votre... de la vie. Dans
oui, c'est ça. Et donc ça correspond à ces périodes qui sont pas des périodes de qui sont des périodes flamboyantes mais de tragédie flamboyante d'épouvante sacrée et on retrouve dans vos toiles cette impression qui correspond bien à l'époque pour les gens qui sont lucides aujourd'hui on doit éprouver un sentiment d'épouvante sacrée bon il y a que l'immense majorité des imbéciles qui n'éprouvent pas ça. Vous n'en faites pas partie, visiblement.
Ben, nous allons nous quitter sur cette profonde réflexion de notre ami Serge. Donc, je rappelle l'exposition d'Antoine Vincent, notamment des œuvres nouvelles. La première à la galerie Philippe Frégnac, 50 rue Jacob, Paris 6e. Et puis également sa contribution avec un portrait à une exposition de jeunes talents aussi, portraitistes, donc à l'Institut au 27 Quai Conti.
C'est
cela. Je rappelle que vous avez également entendu ce soir... Yves-Marie Adeline qui est venu nous parler du carré des philosophes, réponse à la crise de la modernité chez Guitre et Daniel, il est temps que ça se termine, je commence à me marcher sur la langue, et puis nous avons aussi écouté le docteur Thierry Jordan qui prépare lui la deuxième session du Centre des études historiques du Mans, et puis vous avez bien sûr entendu tout à loisir pendant toute cette soirée notre ami Serge de Beketch qui était enfin invité chez lui. Merci, nous retrouvons dans une quinzaine de jours, si vous le voulez bien, avec peut-être une équipe un peu plus étoffée autour de moi. Et puis pour nous quitter, nous allons écouter peut-être une petite minute de musique de la Renaissance, peut-être époque du début de la modernité, mais quand même de la bien jolie musique.
De la belle modernité.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 22 mars 1995, rediffusé dimanche 11 août 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.